إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار دوك أون أريفي أ يقول المصنف رحمه الله باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. Donc ici c'est un chapitre dont le titre est celui qui réalise le tawhid. Haqqaqa al-tawhid, ça veut dire qu'il complète le tawhid, entre au paradis sans hisab, c'est-à-dire sans rendre de compte, sans qu'on lui demande des comptes. Wa qawlillahi ta'ala inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yaku minal mushrikin. Donc premièrement il a cité ce verset qui dit dans sourate An-Nahl, Ibrahim était une umma, c'est-à-dire une communauté, mais en fait ça veut dire umma ici un imam, un guide. Qanitan lillah, obéissant à Allah, hanifa, on va traduire ici par monothéiste, et il n'était pas parmi les polythéistes. Cheikh Idi, Cheikh Al-Fawzan, munasabatul babi li kitab al-tawhid, innal musannif rahimahullah, lamma dhakara al-tawhid wa fadlahu, nasaba an yathkura bayana tahqiqihi, li'annahu la yahsulu kamalu fadlihi illa bikamali tahqiqihi. Donc il dit une fois que Al-Musannif, c'est-à-dire Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, il a montré ce que c'était que le tawhid et il a montré le mérite du tawhid, il était donc adéquat de montrer qu'est-ce que c'est que réaliser le tawhid, parce que la récompense complète du tawhid, elle vient que pour un tawhid qui est complet, qui a été complété. Donc quand il dit حقق التوحيد أي خلصه وصفاه من شوائب الشرك والبدع والمعاصي, donc réaliser le tawhid, ça veut dire le purifier. Khallas, c'est comme quand tu dis khallas tout laban, tu purifies ton tawhid, c'est-à-dire de tout polythéisme, et tu l'écartes de tout ce qui est polythéisme, innovation et péché. C'est ça purifier le tawhid. Et c'est la même chose que si on disait purifier l'iman, accomplir le iman complet pour être ce qu'on appelle dans la religion de l'islam un mu'min, pour avoir le droit du nom mu'min. Mu'min, c'est au-dessus de muslim, celui qui a atteint la foi complète, c'est la même chose. C'est celui qui écarte de sa foi tout polythéisme, toute innovation et tout péché. C'est-à-dire, quand on dit tout péché, chacun il fait des péchés. Mais ce qui est voulu par là, ce sont les grands péchés ou alors le fait d'être toujours, continuellement, sur des petits péchés. Donc ces deux choses-là, elles font que la personne, elle n'est pas qualifiée de mu'min. C'est-à-dire, elle peut être muslim, musulmane, mais elle n'a pas la foi complète. Donc pareil pour le tawhid. Son tawhid ne sera pas complet s'il est mélangé avec du polythéisme, du shirk, ou des innovations, ou alors des péchés. Mais il faut comprendre, quand il dit des péchés, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire n'importe qui fait des péchés, son tawhid il n'est pas complet. C'est pas ça. Parce que tout le monde fait des péchés, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, kullu bani adama khatta, chaque fils d'Adam fait des erreurs. Donc ce qui est voulu, ça ne veut pas dire celui qui ne fait pas de péché. Ça veut dire celui qui ne fait pas les grands péchés, al-kaba'ir, ou alors yastamirru al-sara'ir, quelqu'un qui est continuellement sur les petits péchés. Parce que le fait d'être continuellement sur les petits péchés sans s'en repentir, ça équivaut aux grands péchés. C'est pour ça qu'Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, il disait la kabirata ma astighfar wa la sagirata ma astimrar. C'est-à-dire, il n'y a pas de grand péché avec la demande de pardon. C'est-à-dire que la demande de pardon, elle suffit pour effacer et le repentir, il suffit pour effacer même les grands péchés. Wala sarirata ma astighfar, ça veut dire, il n'y a pas de petits péchés avec la continuité. C'est-à-dire que les péchés sont qualifiés ils sont en deux catégories, les grands et les petits. Mais les petits péchés, si on les fait continuellement, quand une personne elle fait continuellement les petits péchés, il y a dans son cœur la souciance qui naît. Et aussi un certain détournement de la menace d'Allah. Et aussi le fait de prendre la menace d'Allah à la légère. Et toutes ces choses-là, ça fait que ces petits péchés, à la fin, ils sont considérés comme des grands péchés. Comme quelqu'un qui est habitué à regarder, par exemple. Le regard, à la base, ce n'est pas un grand péché. Mais celui qui le fait tout le temps, sans s'en repentir, eh ben, en fait, lui, ça devient un grand péché. C'est pour ça que, donc ça c'est une petite faïda, dans les sciences du hadith, on avait déjà expliqué, il faut que la personne, pour que son hadith soit authentique, elle soit qualifiée de l'adala et d'abt. Al-adala, les arabes, les savants ils disent, c'est malakatun taj'alul mar'a yura'i taqwa wa khawarim al-muru'a. C'est-à-dire la personne, al-adala, c'est le fait que la personne elle soit dans le droit chemin, elle soit pieuse, et aussi elle ait des bonnes coutumes. Si la personne n'avait pas ça, il ne prenait pas son hadith, il l'a considéré comme da'if. Et c'est quoi qui fait que la personne n'est pas ça? Eh ben, c'est le fait, soit il disait l'ulama donc du hadith, soit qu'elle soit connue pour commettre des grands péchés, donc comme la fornication, la désobéissance aux parents, le fait de boire de l'alcool, le vol, le mensonge, etc. Ou soit elle est connue pour être une personne qui commet des petits péchés, mais en continuité. C'est-à-dire elle est connue comme quoi elle fait toujours des petits péchés. Donc pourquoi je vous parle de ça? C'est pour vous montrer que le fait de faire des petits péchés continuellement, c'est équivalent au grand péché. Et c'est ça qui empêche la personne de compléter son tawhid. Bighayri hisab ay la muhasabata alayh. Donc ça c'est pas la peine de traduire. Ummatan ay qudwatan wa imaman mualliman lil khayr. Donc quand Allah il dit dans ce verset, Ibrahim était une umma, ici ça veut dire une qudwa. Qudwa ça veut dire un exemple. Wa imaman, un imam, c'est-à-dire un guide. Imam ça veut dire un guide. Wa mualliman lil khayr, qui enseignait le bien aux gens. Qanitan al qunutu dawam at-ta'a. Donc qu'est-ce que ça veut dire qanitan? Ça veut dire le fait d'être continuel sur l'obéissance à Allah. Dawam at-ta'a. Hanifan, qu'est-ce que ça veut dire hanif? Al hanifu al muqbilu ala Allah al mu'ridu an kulli ma siwahu. Donc il dit al hanif, c'est celui qui se tourne vers Allah et qui se détourne de tout ce qui est d'autre qu'Allah. Et à la base, al-hanif, ça veut dire al-ma'il, celui qui penche. C'est ça que ça veut dire al-hanif en langue arabe. C'est-à-dire celui qui penche du monothéisme vers le tawhid, de tout ce qui est autre qu'Allah, vers Allah. Wa lam yakun min al-mushrikin, ay qad faraka al-mushrikin bil-qalbi wal-lisan wal-badan wa ankara ma kanu alayhi. Quand Allah dit donc, il n'était pas parmi les polythéistes, c'est-à-dire qu'il s'est séparé d'eux avec son cœur, sa langue, parce qu'il les a désavoués, et son corps. Parce qu'il a émigré de la terre où il était au début, la terre de mécréance, c'est-à-dire Ibrahim a.s. Et il a renié la religion sur laquelle ils étaient, le polythéisme. Waqal, donc il cite après dans Kitab al-Tawhid, il a cité un deuxième verset. Waqal, وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ. Il a juste dit ça. Il dit, ceux qui n'associent pas à leur Seigneur. Donc, Donc le deuxième verset, il n'a pas expliqué comme le premier, parce que il est clair. Qu'est-ce qu'il peut me dire? Quel est le rapport entre ces deux versets et le chapitre? C'est pour ça qu'on fait Kitab al-Tawhid, parce que Kitab al-Tawhid, quand tu le prends tout seul, tu ne comprends rien du tout. Il dit chapitre. Celui qui réalise le Tawhid entre au paradis sans rendre de compte. Après, il dit le verset, Ibrahim était un guide obéissant à Allah, monothéiste, et il n'était pas parmi les polythéistes. Et après il dit, et ceux qui n'associent rien à leur Seigneur. Quel rapport avec celui qui réalise le tawhid entre au paradis sans rendre de compte? J'attends vos réponses. Réfléchissez, chouïa. T'es calme, vas-y. Vous voulez pas faire d'efforts là. Donc il dit al-ma'na al-ijmali lil ayati al-ula, donc la signification globale du premier verset, anna Allah subhanahu wa ta'ala yasifu khalilahu Ibrahim alayhi salam bi arba'ati sifat. Donc il dit la signification du premier verset, c'est que Allah il a qualifié ici Khalilahu, c'est-à-dire son intime Ibrahim. Al-Khalil, en fait, ils traduisent par intime, etc. Al-Khalil, c'est celui que t'aimes au plus haut point, en fait. C'est ça le Khalil. Il l'a qualifié par quatre choses. الصفه الاولى انه كان قدوه في الخير لتكميله مقام الصبر واليقين اللذين بهما تنال الامامه في الدين. La première qualité, c'est qu'il était un imam, il était un guide, un exemple dans le bien, parce qu'il avait complété, il dit maqam al-sabri wa maqam al-yaqin, c'est-à-dire le degré de la patience et le degré de la certitude. Ibrahim alayhi salam, il avait complété ces deux choses-là, et par ces deux choses-là, il était devenu un exemple. Il dit parce que c'est par ces deux choses-là, la patience et la certitude, qu'on atteint le stade de imam, c'est-à-dire dans le sens qu'on devient un exemple pour les gens et un guide pour les gens. Et d'où est-ce qu'il a tiré ça? C'est dans Surat As-Sajda, c'est-à-dire dans Surat As-Sajda. Subhanallah, je me souviens plus du verset. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُقِنُونَ, c'est-à-dire وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُقِنُونَ. Allah dit, nous avons fait d'eux des gens, des imams, أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا, qui guident par notre religion, لَمَّا صَبَرُوا, lorsqu'ils ont été patients, et qu'ils étaient certains de nos versets. Donc qu'est-ce qu'Allah il a dit au début du verset? Nous avons fait d'eux des guides, des imams, quand ils ont patienté et qu'ils avaient la certitude dans nos versets. Donc c'est de là Ibn Taymiyyah il a dit, donc c'est par ces deux choses que la personne elle atteint le stade de c'est-à-dire elle devient une personne que les gens prennent pour exemple. C'est par la patience et la certitude. As-sifatu thaniya, donc la première qualité qu'il a citée dans le verset, c'est qu'il était un guide. As-sifatu thaniya annahu kana khashi'an muti'an mudawiman ala ibadati Allah ta'ala, c'est qu'il était craintif d'Allah, obéissant à Allah et continuellement obéissant à Allah. Et le fait d'être continuel sur l'obéissance à Allah, ça fait partie des branches de la foi, comme Allah il a dit dans le Coran, واستبر عليها, en parlant de la prière, استبر عليها, c'est-à-dire sois patient vis-à-vis du fait d'accomplir la prière. La nas'aluka rizqa, nous ne te demandons pas de subsistance, c'est-à-dire c'est pas avec tes prières et la quantité de prières tu vas pas nourrir Allah. Ce qui est voulu, c'est que tu fasses des œuvres que tu peux toi supporter et être et faire de façon continuelle. Donc la deuxième chose, c'est qu'il était obéissant continuellement. As-sifatu thalitha annahu kana mu'aridan 'an ash-shirki muqbilan 'ala Allah ta'ala. La troisième qualité, c'est qu'il se détournait du polythéisme et qu'il se tournait vers Allah. As-sifatu rabi'a bu'duhu 'an ash-shirki wa mufaraqatuhu lil mushrikin. La quatrième qualité, c'est son éloignement du polythéisme et le fait qu'il se soit séparé des mushrikin, c'est-à-dire des polythéismes. Ça, c'est ce qu'on appelle al-wala wal-bara. Il a désavoué le polythéisme et il a désavoué les gens qu'il pratique, c'est-à-dire il s'est séparé d'eux. Donc ça, c'est les quatre qualités. La première, il était un guide pour les gens et quelqu'un qui enseignait le bien. La deuxième, c'est qu'il était dans l'obéissance d'Allah. La troisième, c'est qu'il était loin du polythéisme et qu'il était dans le monothéisme. Il adorait Allah seul. Et la quatrième, c'est son désaveu des polythéistes. Parce que ça ne suffit pas qu'une personne elle pratique le tawhid, mais il faut aussi qu'elle désavoue le polythéisme et les genres du polythéisme. Comme les versets à ce propos, ils sont nombreux. Là, en fait, on fait un charh rapide en vérité. Celui qui veut plus d'explications, il y a beaucoup d'explications de kitab al-tawhid. Là, c'est pour dire d'au moins comprendre le sujet. Donc, il dit Munasabatul ayatil ula lil bab. Donc, quel est le rapport entre le premier verset sur Ibrahim et le chapitre ? أنه وصف خليله بهذه الصفات التي هي الغاية في تحقيق التوحيد وقد أمرنا بالاقتداء به في قوله قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. Donc c'est qu'en fait Ibrahim, Allah il l'a qualifié par certaines qualités qui sont le but de la réalisation du tawhid. Et nous on a été ordonné de suivre et de se guider par rapport à ce qu'il faisait Ibrahim, parce qu'Allah il a dit il y avait en Ibrahim et ceux qui l'ont suivi un bon exemple pour vous, un excellent exemple pour vous. Donc en fait, quand il a parlé du chapitre de réaliser le Tawhid, d'abord avec le verset qui parle d'Ibrahim, il a voulu nous montrer l'exemple de celui qui a réalisé le Tawhid, qui l'a complété. Et qu'est-ce que c'est que compléter le Tawhid? Et donc l'exemple en ça, c'est Ibrahim alayhi salam, comme il l'appelle les ulama, Imam al-Hunafa, l'imam, donc le guide des monothéistes, le guide de ceux qui adorent Allah seul. Et donc les qualités d'Ibrahim dans ça, c'est celles qu'on a citées. Donc réaliser le Tawhid, dedans il y a le fait de réaliser le Tawhid et de s'écarter des gens du polythéisme, et de désavouer le polythéisme, et d'appeler les gens au bien, et d'être continuel sur la crainte et l'obéissance à Allah. Donc c'est ça réaliser le Tawhid. C'est pour ça qu'il a mis le verset au début. C'est pour comprendre qu'est-ce que c'est réaliser le Tawhid. Unasabatul ayati thaniyati lilbab. Maintenant, pourquoi il a mis le deuxième verset qui est ceux qui n'adorent pas quelqu'un avec leur Seigneur, c'est-à-dire ceux qui n'associent rien à leur Seigneur. Et en fait, le verset, il est dans Surat al-Mu'minun, où Allah, il parle des croyants, et il les qualifie par diverses qualités. Parmi elles, ce verset, il a dit ceux qui n'associent rien à leur Seigneur. Il dit Anna Allah ta'ala wasaf al-mu'minin as-sabiqin ila al-jannati bi sifatin a'zamaha. أعظمها الثناء عليهم بأنهم بربهم لا يشركون شيئا من الشرك لا خفيا ولا جليا ومن كان كذلك فقد بلغ من تحقيق التوحيد النهاية ودخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. Donc pourquoi il a mis ce verset ici? C'est parce qu'Allah dans le verset dans Sourate Al-Mu'minin, donc il a qualifié les croyants qui rentrent au paradis en premier par diverses qualités. Et la principale et la plus grande qualité qu'il a citée de ses croyants, c'est qu'il les a vantés par le fait qu'ils n'associent rien à leur Seigneur. Qu'ils n'associent rien, ça veut dire ni du shirk khafi, c'est-à-dire pas d'ostentation, ni du shirk clair, c'est-à-dire de l'adoration d'autre qu'Allah par exemple. Toutes sortes de polythéismes, qu'ils soient petits ou grands, ils l'évitent. Et celui qui réalise ça, c'est celui qui a atteint le stade de réaliser le tawhid. Et c'est lui qui rentre au paradis sans rendre de compte et sans subir de châtiment. Donc en fait, on se rend compte que ce qui est voulu ici, c'est pas quelque chose de simple. Réaliser le tawhid, c'est pas seulement ne pas tourner autour des tombes et ne pas faire demander l'intercession aux morts, c'est pas seulement ça. C'est aussi s'écarter donc de ce qu'on appelle ar-riya, le fait de faire de l'ostentation, d'embellir ses œuvres pour le regard des gens, ou alors as-sum'a, c'est-à-dire d'embellir ses paroles, sa lecture du Coran, etc., pour que les gens ils disent de toi, etc., etc. Ou alors, ce qu'on appelle l'amalou lid-dunya, c'est-à-dire le fait d'agir dans la religion pour acquérir un bien d'ici-bas. Comme quelqu'un qui s'efforcerait à apprendre le Coran, par exemple, seulement pour devenir imam pour le salaire qu'il y a derrière, par exemple. Ou celui qui apprend l'adhan seulement pour faire l'adhan pour le salaire qu'il y a derrière. Etc, etc. Ou celui qui apprend en faculté de charia le fiqh pour pouvoir faire prof pour l'argent, pas pour enseigner le bien aux gens. Tout ça, c'est des genres de polythéisme. Ou alors aussi le fait de, comme Allah dit dans le Coran, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu, as-tu vu celui qui prend sa passion comme divinité, c'est-à-dire ce qu'il a dans son cœur. Et ça, le verset, il est expliqué par le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ta'isa abdu dinar, ta'isa abdu dirham. C'est-à-dire, le prophète, il a fait une dua, comme pour maudire quelque part. Il dit que tombe l'adorateur du dinar et l'adorateur du dirham et l'adorateur de l'khumaïs, c'est-à-dire un certain genre de vêtement. C'est-à-dire celui qui aime dunya au point que ça détourne des ordres d'Allah. Celui-là, il a commis une certaine catégorie de shirk, qu'il ne fait pas sortir d'islam, mais c'est parce qu'il a fait ce qu'Allah il a dit dans le Coran. Il a pris sa passion comme divinité. C'est-à-dire celle qui guide ses faits et gestes. C'est pas, donc réaliser le tawhid, c'est pas seulement qu'on a compris que le tawhid, c'est adorer Allah seul. C'est aussi donc s'écarter de toutes les sortes de polythéisme mineur, parmi l'ostentation, etc., etc. Ou alors le fait d'être passionné par la vie d'ici-bas au tel point que ça nous détourne de la religion. Et aussi c'est donc ensuite réaliser l'appel, comme Allah dit dans le Coran, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah", dis voici mon chemin, j'appelle à Allah. avec clairvoyance, c'est-à-dire avec science, moi et ceux qui me suivent. Wa subhanallah wa ma ana minal mushrikin. Et pureté à Allah, et je ne suis pas parmi les polythéistes. Donc c'est aussi appeler, une fois que tu as réalisé le tawhid, appeler les gens, ça fait partie de la réalisation du tawhid. Et aussi le désaveu, al-wala wal-bara, c'est-à-dire aimer pour Allah et s'unir pour Allah, et aussi de l'autre côté détester pour Allah et se séparer pour Allah de ceux qui s'opposent au tawhid et à la religion d'Allah. ما يستفاد من الآيتين أولا فضيلة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. Donc il dit ensuite, comme d'habitude, qu'est-ce qu'on profite des deux versets. Il dit donc le mérite de notre père Ibrahim عليه السلام. ثانيا الاقتداء به في هذه الصفات العظيمة. Le fait de suivre ses traces dans les qualités qu'Allah il a citées ici. ثالثا بيان الصفات التي يتم بها تحقيق التوحيد. Troisièmement, le fait de montrer quelles sont les qualités par lesquelles on réalise le tawhid. Rabi'an, mujubu l'ibti'ad 'an ash-shirk wal-mushrikin wal-bara'ati min al-mushrikin. Quatrièmement, l'obligation de s'éloigner du polythéisme et des polythéistes et de se désavouer des polythéistes. Khamisan, wasfu al-mu'minina bi tahqiq at-tawhid. Donc cinquièmement, le fait de qualifier les croyants comme étant des gens qui ont réalisé le tawhid. Ensuite, il reste juste un hadith dans le chapitre, il a dit عن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة فقلت أنا ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. Donc je vais traduire à chaque fois. Donc selon Hussein ibn Abd al-Rahman qui a dit, j'étais auprès de Saïd ibn Jubayr qui a dit, donc ça c'est un tabi'i, qui d'entre vous a vu l'étoile qui s'est éteinte hier? Et j'ai dit moi. Donc Hussein ibn Abd al-Rahman il dit moi je l'ai vu. ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. Et Hussein il rajoute, il dit je n'étais pas en train de prier parce que ça c'était la nuit. Donc il a voulu dire j'étais pas réveillé la nuit parce que j'étais en train de prier. Il dit simplement j'ai été mordu. قال فما صنعت. Mordu c'est-à-dire piqué par un scorpion ou un serpent. قال فما صنعت. Donc Saïd ibn Jubair il lui dit qu'est-ce que tu as fait? Qultur taqait. Il lui dit je me suis fait ruqya, pour traduire mot à mot, je me suis exorcisé. Qala fama hamalaka ala dhalik. Saïd ibn Jubair il lui dit qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? Qultu hadithun haddathanahu ash-sha'bi. Donc l'autre Hussein il répond ce qui m'a poussé à faire ça c'est un hadith que nous a raconté ash-sha'bi. Qala wa ma haddathakum. Saïd il lui dit qu'est-ce qu'il vous a dit ash-sha'bi? Qult حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. Donc il nous a dit selon Bureyda ibn al-Husayb, comme quoi il a dit il n'y a pas de ruqya, c'est-à-dire d'exorcisme, si ce n'est contre l'ayn, c'est-à-dire le mauvais œil, ou le huma. Le huma c'est une certaine sorte de piqûre. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. Donc Saïd ibn Jubair quand il a entendu l'autre lui dire ça, il lui a dit celui qui s'arrête à ce qu'il a entendu, il a bien agi. C'est-à-dire celui qui s'arrête au dalil, il s'arrête à la science, il ne dépasse pas ce qu'il a entendu comme science, il a bien fait. Walakin, cependant, haddathana ibn Abbas an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala. Cependant, Ibn Abbas nous a dit radiyallahu anhuma, il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit uridat alayya al-umam fa ra'aytu an-nabiyya wa ma'ahu ar-rahd wa an-nabiyya wa ma'ahu ar-rajul wa ar-rajulan. Donc le prophète a dit on a fait défiler devant moi les communautés et j'ai vu un prophète avec lui un groupe de gens, c'est-à-dire une dizaine, et j'ai vu un prophète avec lequel il y avait un ou deux hommes et un prophète sans qu'il n'y ait personne avec lui. Jusqu'à ce que j'ai vu sawad azim. Sawad ça veut dire du noir. Et en arabe, quand ils disaient sawad, des fois, ce qu'ils veulent dire par là, c'est le peuple. Pourquoi? Parce que les gens, quand ils s'assoient tous et que tu vois leur tête, ça fait du noir. C'est pour ça qu'on dit sawad. Par exemple, des fois, ils emploient l'expression as-sawadul a'zam. As-sawadul a'zam, le plus grand noir, ça veut dire la plus grande masse des gens. Comme quand ils disent al-jama'a fi awwal al-islam kanat as-sawad al-a'zam. C'est-à-dire al-jama'a, al-sunnah, au début de l'islam, ils étaient. C'est une expression, as-sawad al-a'zam, ça veut dire la plus grande La majorité de la foule, c'était eux. C'est ça que ça veut dire As-Sawad. Donc il dit, j'ai vu une grande foule et j'ai pensé que c'était ma communauté et on m'a dit, voilà Moussa et son peuple. فَنَظَرْتُ فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ فَقِيلَ لِي هَذِهِ أُمَّتُكَ وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ. Ensuite, j'ai regardé et j'ai vu une grande foule. Et on m'a dit, voilà ta communauté. Et avec eux, il y a 70 000 personnes qui entrent au paradis sans qu'on leur demande des comptes et sans châtiment. ثُمَّ نَهَضْ فَدَخَلَ مَنْزِلَهُمْ فَخَاضَ النَّاسُ فِي أُولَئِكَ. Donc ensuite le prophète il s'est levé, il est rentré chez lui parce que la maison du prophète elle était collée à la mosquée. En fait, la porte elle donnait chez lui. Et les gens ils sont mis à discuter sur ces gens, ces 70 000 qui rentrent au paradis. فَقَالَ بَعْضُهُمْ فَلَعَلَّهُمُ الَّذِينَ صَحِبُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ فَلَعَلَّهُمُ الَّذِينَ وُلِدُوا فِي الْإِسْلَامِ فَلَمْ يُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَذَكَرُوا أَشْيَاءَ. Donc certains sahaba ils ont dit, peut-être que ce sont ceux qui ont accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'autres ont dit, peut-être que ce sont ceux qui sont nés dans l'islam et qui n'ont jamais associé quoi que ce soit à Allah. Et ils ont mentionné d'autres choses. فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ sallallahu alayhi wa sallam فَأَخْبَرُوهُ فَقَالَ. Donc lorsque le prophète il est ressorti plus tard, ils l'ont informé, il a dit, هُمُ الَّذِينَ لَا يَسْتَرْقُونَ. Ce sont ceux qui ne demandent pas l'exorcisme. وَلَا يَكْتَوُونَ. Et ils ne pratiquent pas Al-Kay. Al-Kay, c'est en français la cautérisation. Non, les ventous, c'est le hijama. Al-Kay, c'est... Ouais, je vais l'expliquer après. وَلَا يَتَطَيَّرُونَ. Et ils ne pratiquent pas l'augure. وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Et ils s'en remettent à leur Seigneur. فَقَامَ عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنْ فَقَالْ. Donc عُكَاشَ بْنُ مِحْصَنْ, un sahabi, il s'est levé, il a dit, اُدْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ فَقَالَ أَنْتَ مِنْهُمْ. Il a dit au prophète, invoque Allah qu'il me mette parmi eux. Et le prophète lui a dit, tu es parmi eux. ثم قال رجل آخر فقال ادع الله أن يجعلني منهم فقال سبقك بها عكاشة. Un autre homme s'est levé et lui a dit, demande à Allah qu'il me mette parmi eux. Il lui a dit, عكاشة t'a devancé. Donc le hadith il est dans Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan al-Tirmidhi, Sunan al-Darimi et Al-Musnad de l'imam Ahmed. C'est quoi la différence entre Sunan et le Musnad? Non, il y a une différence. Dans le livre, comment il est fait, il y a une différence.
En fait, il cite tous les rapporteurs.
Non, tous, il cite tous. Ça dépend ce que tu veux dire par il cite tous les rapporteurs, en fait. Non, ben, si tu prends Sunan al-Tirmidhi, Sunan al-Nasa'i, il cite tous les rapporteurs. Donc, c'est quoi un Musnad? Et le plus connu, c'est le Musnad de l'imam qui, d'ailleurs? De l'imam Ahmed. Mais en fait, il y a le Musnad d'Al-Bazzar, Musnad de Abu Daoud et Tayalisi. Il y a beaucoup de Musnad de livres qui s'appellent Musnad. Il y en a plein. Donc en fait, un Musnad, c'est un livre que le Muhaddith il fait avec les noms des Sahaba. Par exemple, il commence par Abu Bakr et il met tous les hadiths qui sont rapportés du prophète mais qui passent par Abu Bakr. Donc en fait les hadiths ils sont pas dans un thème précis. Tu vas dans le chapitre de Abu Bakr et tu trouves des hadiths qui parlent de l'aqida, des hadiths qui parlent de l'wudu, des hadiths qui parlent du mariage, des hadiths qui parlent du comportement. Après, qui est-ce qui met en deuxième? Omar ibn al-Khattab. C'est-à-dire les 10 premiers, il met les 10 qui ont été promis au paradis. Ensuite il met les compagnons de la bataille de Badr, etc. etc. Donc c'est ça un musnad. C'est classé par sahabi. C'est pas classé par thème. Donc si tu cherches un hadith sur le wudu, tu ne vas pas le trouver au début du livre. Il faut que tu regardes le sahabi et tu pars dans la partie de ce sahabi dans le musnad et tu cherches le hadith. Donc au début de l'islam, les premiers livres, c'était plus comme ça. Ils écrivaient un musnad. Il n'y avait pas de thème. Et après, ils écrivaient ce qu'on appelle les sunan. Les sunan, donc, ils commencent par le livre des ablutions, après le rous, le tayammum, le fait d'essuyer les chaussons, etc. Après la salat, après la zakat. Donc les sunan, c'est classé par chapitre. Et les musnad, c'est classé par sahabi. Et le musnad de l'imam Ahmed, son degré d'authenticité, il est très haut. C'est-à-dire, il n'y a pas beaucoup de hadith faibles dedans. Et il y a à peu près 40 000 hadiths dedans.
Ça ne veut pas dire 40 000 hadiths différents, mais il y a 40 000 chaînes de transmission différentes qui mènent à un hadith. Donc un hadith, il peut se répéter. Il est pas compté, il est compté deux fois différentes quand on dit 40 000. Donc il dit, premièrement, تراجم الرجال الواردة أسمائهم في الحديث. Donc premièrement, il va donner un peu les noms des bonhommes qui ont été cités ici. حسين هو حسين بن عبد الرحمن السلمي الحارثي من تابع التابعين مات سنة 36 وله 93 سنة. Donc حسين بن عبد الرحمن, celui qui raconte l'histoire, donc il a cité son nom complet et il dit il fait partie de la génération d'après les tabi'in. Et il est mort en 136 à l'âge de 93 ans. Ensuite, il dit Saïd ibn Jubair, هو الإمام الفقيه من أجلة أصحاب ابن عباس قتله الحجاج سنة 95 ولم يكمل الخمسين. Donc Saïd ibn Jubair, c'est un imam faqih. Quand on dit un imam, ça veut dire que c'est un des plus grands exemples dans la génération des tabi'in, qui faisait partie des principaux compagnons d'Abdullah ibn Abbas. Comme par exemple, qui d'autre? Mujahid ou Ikrima. C'est important de savoir des petits trucs comme ça. Comme vous lisez Tafsir ibn Kathir, souvent c'est les compagnons d'Ibn Abbas dont on rapporte les explications. Et donc il a été tué par Al-Hajjaj. Al-Hajjaj était un émir, donc qui a une vie assez spéciale. Il a tué beaucoup de gens pieux comme ça. En l'an 95, et il n'avait même pas atteint l'âge de 50 ans. Al-Sha'bi, ismuhu Amir ibn Shurahil al-Hamadani, wulida fi khilafati Umar, wa huwa min thiqati at-tabi'in, mata sana 300. Donc Al-Sha'bi, c'est Amir ibn Shurahil al-Sha'bi al-Hamadani, qui était né pendant le califat d'Umar, et il fait partie des thiqat, c'est-à-dire des ceux dont le hadith est authentique, parmi les tabi'in. Et il est né en l'an 103. Il est mort en l'an 103. C'est lui dont l'imam Shafi'i disait je me suis plaint à Sha'bi de ma mémoire qui était faible, et il m'a dit écarte-toi des péchés, parce que la science d'Allah est une lumière, et la lumière elle ne va pas dans un cœur qui est dans le cœur d'un pécheur. Vous avez déjà lu cette histoire? C'est lui Sha'bi. Bouraïda ابن الحصيب ابن الحارث الأسلمي صحابي شهير مات سنة 63. Donc بريدة ابن الحصيب lui c'est un compagnon qui est connu, qui est mort en 63. ابن عباس هو الصحابي الجليل عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل فكان كذلك ومات بالطائف سنة 98. Donc Ibn Abbas, c'est le compagnon du prophète Abdullah Ibn Abbas Ibn Abdel Muttalib, le fils de l'oncle paternel du prophète, c'est-à-dire le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète, il avait dit Allah, fais-lui comprendre la religion et apprends-lui at-ta'wil, apprends-lui l'interprétation. Et Ibn Abbas, il était ainsi, c'est-à-dire il était savant dans la religion et dans le tafsir jusqu'à ce qu'il meure à Ta'if en l'an 68. عكاشة هو عكاشة بن محصن بن حيرثان الأسدي كان من السابقين إلى الإسلام هاجر وشهد بدرا وقاتل فيها واستشهد في قتال الردة مع خالد بن الوليد سنة 12. Donc عكاشة بن محصن, donc ça il fait, c'est un des premiers musulmans de la Mecque, et il a fait l'émigration à Médine, et il a combattu dans la bataille de Badr, et il est mort martyr dans les batailles de ce qu'on appelle Qital al-Ridda, c'est-à-dire dans l'époque d'Abu Bakr, quand certaines tribus, elles sont revenues sur leurs pas, elles sont sorties de l'islam, soit franchement, ou soit en disant que par exemple la zakat n'est plus obligatoire. Donc ça veut dire ils priaient et tout ça, mais ils disaient la zakat, ça c'était du temps du prophète. Donc ils sont sortis de l'islam de cette façon-là, et les sahaba ils ont combattu. Ou alors d'autres ils ont mécru en suivant les faux prophètes, comme par exemple Moussaïlama. Donc il y en a qui ont suivi le prophète et ils ont suivi en même temps Moussaïlama, donc ils étaient mécréants. Ils disaient la ilaha illallah, mais le fait qu'ils suivent deux prophètes, ça ne marche pas, parce que la ilaha illallah, elle a des conditions. Ou alors d'autres qui suivaient d'autres prophètes. Donc à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la grosse mission d'Abou Bakr, c'était de combattre ceux qui étaient sortis de l'islam. et ils les ont combattus, et Allah il a ouvert la péninsule arabique en tout entière au temps d'Abu Bakr. Ensuite il dit, donc je ne vais pas tout traduire parce que les mots arabes je les ai déjà traduits quand j'ai... Donc quand il dit irtaqaytu ya'ni talabtu man yarqini wa ruqya qira'atu al-Qur'an wa al-ad'iyatu al-shar'iyyatu 'ala al-musab bi maradin an nahwihi. Quand il dit irtaqayt, donc quand l'autre lui a dit qu'est-ce que tu as fait quand tu as été piqué par un scorpion, il lui a dit irtaqaytu. Il dit irtaqaytu, ça veut dire j'ai demandé qu'on me fasse la ruqya, l'exorcisme. Et Cheikh il dit, il traduit ici la ruqya, l'exorcisme, par le fait de lire le Coran ou des invocations qui viennent de la religion sur celui qui est atteint d'une maladie, ou de quelque chose de semblable. Ma hamalaka ala dhalik. Qu'est-ce qu'il lui a répondu Saïd ibn Jubayr quand il lui a dit j'ai pratiqué l'exorcisme? Il lui a dit qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? Ma hujjatuka ala jawazi dhalik. Ça montre que à l'époque des salafs, ils agissaient pas dans la religion comme ça. Mais ils faisaient comme Allah il a dit dans le Coran, qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Ramenez votre preuve si vous êtes véridique. C'est-à-dire qu'il demandait à la personne qui prétend quelque chose dans la religion de ramener sa preuve. Et la personne, est-ce qu'elle s'énervait? Non. Mais elle disait, voilà, le muhadith, ma preuve, etc., avec sa chaîne de transmission. La ruqyata illa min ayn. Al-aynu isabatu al-ayni ghayrahu bi'aynihi. Donc le premier, Hussein ibn Abdurrahman, il lui a ramené la parole d'un compagnon du prophète, Buraydat ibn al-Hussein, qui lui a dit, il n'y a pas de ruqya sauf pour l'ayn ou pour al-humma. Al-ayn, c'est le fait de toucher autre que soi par son œil. Et l'ayn, c'est une réalité. Bon, ça c'est pas le chapitre ici, mais pour mentionner, le prophète sallam il a dit al-aynu haqq. Et Allah il a dit dans le Coran, wa in yakadu alladhina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim. C'est-à-dire ceux qui ont mécru te font presque tomber par leurs yeux, parce que l'ayn ça existe. C'est-à-dire quand une personne regarde une autre avec jalousie ou avec quelque chose dans son cœur, elle peut l'atteindre. Donc c'est par quelque chose qui se fait par la permission d'Allah, par ce qu'on appelle l'ayn. Et elle peut la faire tomber malade, ou même aller jusqu'à la tuer ou la faire tomber, etc., etc. Et après, quand il dit al-huma, donc al-huma, c'est le fait d'être touché par le poison d'un scorpion, ou de ce qui ressemble à un scorpion, comme le serpent, etc. Donc quand il lui a dit sa preuve, qu'est-ce qu'il a dit Saïd ibn Jubayr? Il lui a dit قَدْ أَحْسَنَا مَنْ إِنْتَهَا إِلَى مَا سَمِعَ أَيْ أَخَذَا بِمَا بَلَغَهُ مِنَ الْعِلْمِ بِخِلَافِ مَنْ يَعْمَلُ عَلَى جَهْرٍ أَوْ لَا يَعْمَلُ بِمَا يَعْلَمُ. Donc il lui a dit, celui qui s'arrête à ce qu'il a entendu, il a bien agi. C'est-à-dire, contrairement à celui, c'est-à-dire celui qui prend ce qui lui est parvenu comme science et qui agit selon ça, celui-là il a bien agi dans l'islam. Contrairement à celui qui agit sans aucune science, ou alors qui a de la science mais qui agit pas selon elle. Ensuite il dit uridat alayya al-umam qila kana dhalika laylat al-isra ay arahu Allah mithalaha idha ja'at yawm al-qiyamah. Donc quand le prophète il a dit sallallahu alayhi wa sallam, on a fait défiler devant moi les communautés. Certains ils ont dit c'est pendant le voyage nocturne. C'est-à-dire qu'Allah il lui a montré l'image des communautés quand elles viendront au jour du jugement. Donc ensuite, le reste j'ai déjà traduit. Donc ensuite il traduit, quand il dit dans le hadith, quand il décrit qu'est-ce que c'est ces gens qui font les 70 000 qui rentrent au paradis. Il a dit humul ladhina la yastarqun. Ce sont ceux qui ne demandent pas la ruqya. Il a dit la yatlubun man yarqihim istirna'an 'anil nas. C'est-à-dire ils ne demandent pas à ce qu'on leur fasse la ruqya parce qu'il se passe des gens. Donc ça ne veut pas dire qu'ils ne pratiquent pas la ruqya, parce que la ruqya elle est légiférée et on peut presque dire elle est préférable. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, aqarrahum, c'est-à-dire il a approuvé le compagnon, comme vous connaissez dans Sahih al-Bukhari, quand il avait lu sur un chef arabe d'une tribu qui se plaignait d'avoir été mordu par un scorpion. Et le sahabi, il a lu la Fatiha, il a postillonné sur sa il a lu la Fatiha, il a postillonné sur sa blessure. Et l'homme, il s'est levé comme s'il n'avait rien. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a entendu ça, il lui a dit Ma adraka annaha ruqya. Qui sait comment tu as su que c'était une ruqya? Donc il l'a affirmé que c'était bien une ruqya. Et aussi Jibril alayhi salam, il a pratiqué la ruqya au prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il a été ensorcelé, en lisant sur lui Qul a'udhu bi rabbil falaq, qul a'udhu bi rabbin nas, etc. etc. Donc la ruqya, c'est quelque chose de licite dans l'islam et de légiférer. Et c'est même préférable. Parce que le prophète, il a bien dit Tadaou ya ibad Allah, soignez-vous au serviteur d'Allah. Donc la personne malade, il lui est préférable de se soigner. Et aussi le fait de faire ça pour quelqu'un, c'est bien aussi parce que c'est aider quelqu'un. Et toute aide, toute bienfaisance dans l'islam, elle est légiférée. Maintenant, est-ce que ça veut dire que je fais ruqya et demain un autre malade il est malade, je refais ruqya, et demain un troisième je refais ruqya à tel point que je sois connu que c'est moi qui fais ruqya et je cours partout, etc. Ça, on ne dit pas que c'est interdit. Même certains ulama, ils l'approuvent. Et ils disent que la personne, elle peut être qualifiée comme un exorciste. C'est-à-dire que c'est ça son occupation. Il peut même prendre un salaire si la personne, elle guérit par rapport à ce qu'il fait. Mais, wallahu a'lam, le mieux dans tout ça, là je vous parle d'expérience, c'est pas quelque chose qui est une fatwa ou quoi, même si certains mashaykh, comme Cheikh Rabi al-Matkhali par exemple, c'est quoi. Il déconseille ça, le fait qu'une personne elle soit exorciste, c'est-à-dire elle fait toujours les exorcismes aux gens. Pourquoi? Parce que en vérité il vaut mieux, c'est-à-dire la ruqya, ça c'est quelque chose qui est dans la main de tout musulman. Toute personne qui est atteinte du djinn ou de la sorcellerie ou du mauvais œil, le Coran il est sous ses yeux. Il n'y a qu'à lever ses mains pour faire dua. Les rappels du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils sont dans les livres. Donc pourquoi elle va aller chercher quelqu'un pour lui faire, alors qu'elle peut le faire? Si elle ne peut pas le faire, c'est son mari ou sa femme, si c'est un homme, qui peut lui faire. Et aussi parce que celui qui s'habitue à faire la ruqya aux gens, on sait d'expérience qu'au bout de 5 ans ou 10 ans, il commence à avoir des ennuis. Soit c'est les femmes qui l'appellent tout le temps parce qu'elles veulent se marier avec lui. Beaucoup de frères qui font ruqya, c'est ce qui leur arrive. Et ils ont des problèmes avec des femmes, soit des problèmes sur leur réputation, parce qu'ils prennent l'argent, ou ils prennent pas l'argent, ou ci ou ça, ou soit des problèmes, parce que les djinns, c'est bien de t'attaquer aux djinns, mais les djinns, ils vont pas te laisser comme ça, ils vont se venger. Donc si toi, t'es protégé, mais qu'en est-il de ta femme, tes enfants, tes frères, tes sœurs? Et la plupart des frères qui font ruqya, c'est ce qu'on a observé. Ils ont des problèmes avec des femmes, ils ont des problèmes dans la réputation, ou alors ils s'en sortent plus. À tel point que même ils ne savent plus où donner de la tête, tout le monde les appelle et ils passent leur temps là-dedans et ils négligent leur famille, et leur famille elle est tout le temps atteinte par des djinns, par des gens qui se vengent par de la sorcellerie, etc., etc. Donc il vaut mieux apprendre aux gens à se faire ruqya que les habituer à ce que dès qu'ils demandent une ruqya, on leur apporte quelqu'un. Donc il vaut mieux leur redire d'abord déjà la première chose avant de demander qu'on te fasse ruqya. Quel est ton état? Est-ce qu'au moins tu pries? Si tu pries, comment tu pries? Si tu pries bien, est-ce que tu pries à l'heure? Si tu pries à l'heure, est-ce que tu ne commets pas des grands péchés à côté? Tout ça, c'est des portes qui permettent aux shayatins de t'attaquer. Donc ça sert à rien que je te fasse au cœur. Et peut-être le djinn, je vais le tuer. Ou peut-être il va sortir, certes. Mais quand le djinn, tu en seras débarrassé, qu'est-ce qui va empêcher un autre de t'attaquer si tu es dans cet état-là? Donc déjà, il faut apprendre aux gens. Parce que je dis ça parce qu'on entend tous les jours des histoires de ruqya, de djinn, de sorcellerie, etc. Donc premièrement, avant d'habituer les gens à la facilité qu'on leur ramène un exorciste, premièrement, apprendre aux gens c'est quoi les causes qui vont les protéger de ça, que eux-mêmes ils doivent pratiquer. La prière à l'heure, s'accrocher à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dégager les images de la maison, pas écouter la musique, pas passer des heures devant la télévision, etc., etc. En ce qui concerne les femmes, mettre le hijab, etc., etc. Dire les invocations avant d'entrer aux toilettes, avant de dormir, avant de sortir, en rentrant, etc., etc., en s'habillant. Toutes ces sunan, si on les pratique, c'est des portes fermées à shaitan. Et après, plus celui qui peut dire 100 fois le matin La ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shayin qadir, etc. déjà que la personne elle essaye de pratiquer ça, si en plus après elle a encore son mal, bah, qu'elle lise le Coran elle-même, qu'elle fasse l'effort de lire l'arabe et de lire le Coran elle-même. Et si après ça encore il y a des problèmes, peut-être on va lui ramener un frère qui a une certaine expérience dans le sujet, qui a une certaine facilité, qui supporte ça, etc. etc. Ou alors une personne qui est déjà folle, ça veut dire on ne peut pas lui dire qu'elle a par exemple un frère qui est bien dans la religion, mais lui a été atteint, mais il n'est plus conscient, on ne peut pas lui dire Yahri, lis le Coran, etc. Lui, ça y est. Donc lui, à la limite, d'accord, on comprend qu'on lui ramène quelqu'un. Mais dès qu'une personne elle a un problème, on lui ramène quelqu'un. Et en plus, sans regarder si la personne elle prie ou elle prie pas, ou elle est pieuse ou elle est pas pieuse, ça c'est habituer aux gens à la facilité. Ouais, en plus, ouais, c'est pas lui qui va demander. Mais parce que le fait de demander, à la limite, ça c'est pas ça qui est, c'est pas haram. Ça, je vais rentrer dedans dans deux secondes. Mais ce que je veux dire, c'est, comme ils disent, vaut mieux apprendre à quelqu'un à pêcher que de lui donner 1000 poissons. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quelqu'un qui a faim. Tu vas lui donner 1000 poissons, il va manger pendant 1000 jours. Et au bout des 1000 jours, qu'est-ce qu'il va faire? Alors que si tu lui apprends à pêcher, dès demain, il va se faire sa nourriture tout seul. C'est pareil pour Ruqya. Apprends aux gens, guide-le, c'est une occasion de da'wa. Quand une personne elle te dit je suis atat si, je suis atat ça, c'est l'occasion. Regarde, t'es pas dans le droit chemin. Regarde la sunna du professeur Sam, elle est là et toi t'es là-bas. Regarde ce qui est haram, toi t'es en plein dedans. Regarde ce qui est halal et ce qui est obligatoire, t'es à l'opposé, etc. etc. Plutôt que d'habituer les gens tout de suite à avoir des exorcismes. Donc il dit la yastalqun, c'est-à-dire qu'il ne demande pas aux gens qu'elle leur fasse le ruqya. Après il dit wala yaktaoun. Donc ce qui est voulu ici, c'est de demander à autrui qu'il te fasse le ruqya. C'est pas de faire la ruqya. Faire la ruqya, ça c'est légiférer, c'est une sunna. Et si jamais une personne elle te le propose, là tu rentres pas dans ceux qui demandent. Bien différencié. Celui qui demande à ce qu'on lui fasse ruqya et celui qui est malade et quelqu'un il vient et lui dit je te propose. Là tu rentres pas, tu peux être encore dans les 70 000. Wala yaktaoun, ay la yas'aloun ghayrahum an yakouyahum bin nar. La yaktaoun, c'est-à-dire ils ne demandent pas à autrui qu'il leur pratique sur eux la cautérisation. La cautérisation, c'est le kay. Et le kay, à la base, son jugement dans l'islam, c'est al-karaha. C'est-à-dire que le kay, c'est un remède qui est connu chez les Arabes. C'est de prendre une tige en fer, par exemple, de brûler le bout et de le mettre sur la blessure pour soigner. C'est de la médecine traditionnelle. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en fait, il y a beaucoup de hadiths qui ont été rapportés sur le sujet. Il y en a où le prophète, il l'interdit. Il y en a d'autres où le prophète lui-même, il le pratique. Donc, en fait, si on regroupe tous les hadiths, on peut voir que c'est licite, c'est-à-dire que c'est licite parce que le prophète il l'a approuvé et il l'a fait, mais en même temps il vaut mieux s'en écarter parce que le prophète il l'a interdit. Donc c'est pas haram, sinon le prophète il l'aurait pas pratiqué, il l'aurait pas approuvé, mais c'est déconseillé. Donc c'est les gens là, qui sont les 70 000 qui rentrent au paradis directement, ils pratiquent pas la cautérisation, cette médecine. وَلَا يَتَطَيَّرُونَ أَيْ لَا يَتَشَأَمُونَ بِالطُّيُورٍ وَنَحْوِهَا. La yatatayyarun, et tatayyur, c'est l'augure, la mauvaise augure. La mauvaise augure, c'est, par exemple, à l'époque des Arabes avant l'islam, ils prenaient des oiseaux et ils les lâchaient avant de partir en voyage. La superstition. Si les oiseaux ils partaient à droite, ils disaient le voyage il sera bon, on part. S'ils partaient vers la gauche, ils disaient le voyage il va être mauvais. C'est comme ils disent maintenant, si je passe en dessous d'une échelle, il va m'arriver un malheur. Ou si je me lève du pied gauche, la journée elle va être mauvaise. C'est ce qu'on appelle la superstition, c'est rattacher la réalité à des causes qui n'existent pas dans la réalité. C'est ça la réalité de Tatayur. Donc ces 70 000 là, ils ne pratiquent pas ça. Et Tatayur, il y a un chapitre exprès dessus, et après il dit « وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ أَيْ يَعْتَمِدُونَ فِي جَمِيعِ أُمُورِهِمْ عَلَيْهِ لَا عَلَى غَيْرِهِ وَيُفَوِّدُونَ أُمُورَهُمْ إِلَيْهِ. » Donc c'est-à-dire, quand il dit à la fin, et ils s'en remettent à leur Seigneur, c'est-à-dire qu'ils s'appuient sur lui dans toutes leurs affaires, et pas sur quelqu'un d'autre, et ils remettent toutes leurs affaires à Allah. Et tawakkul authentique, ça on en avait parlé déjà, il a deux piliers qui sont... C'est quoi les deux piliers du tawakkul? Fi'alul asbab wa i'timadul qalbi ala Allah. C'est-à-dire, pratiquer les causes matérielles qui te font arriver à ce que tu veux. C'est-à-dire que si tu veux un enfant, bah, te marier. Si tu veux de l'argent, travailler. Si tu veux, etc. etc. Si tu veux la santé, te soigner. Ça, c'est les causes. Et le fait que le cœur s'en remette à Allah dans le fait d'acquérir ce qui est voulu, le but final. Donc c'est pas l'un sans l'autre. L'un sans l'autre, c'est un mauvais tawakkul. Je m'étale pas sur ça, c'est juste pour rappeler. Donc quand vous regardez bien, comment il a qualifié ces 70 000, il a dit, il ne demande pas à autrui de leur pratiquer l'exorcisme. Il ne pratique pas la cautérisation et il ne pratique pas l'augure. Donc en fait, qu'est-ce que ça cache ces trois-là? En fait, la quatrième, elle regroupe ces trois-là, parce qu'il a dit, et ils s'en remettent à leur Seigneur. Tu disais quoi? Dans quel sens? En fait, ce que tu veux dire, ça veut dire qu'ils écartent le shirk totalement. En fait, ici, le prophète, il a montré trois exemples par lesquels la personne, si elle ne pratique pas ces trois choses-là, on peut dire qu'elle s'en remet à Allah. Ça montre que la personne, elle s'en remet vraiment à Allah. En fait, il a cité quatre points. Mais le quatrième, en fait, il regroupe les trois premiers. Les trois premiers, ce sont que des manifestations du quatrième. Quand il dit, il ne demande pas à autrui de leur faire un ruqya. C'est qui la personne qui ne demande pas à quelqu'un d'autre de lui faire ruqya? C'est la personne qui se dit, moi j'ai le Coran et il y a Allah pour me guérir. Et je peux me faire la ruqya. Donc pourquoi je vais demander à quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre, lui, qui soit un tel ou un tel, il ne me sera pas utile auprès d'Allah. Et celui qui me guérit, c'est Allah, pas lui. Donc je peux le faire moi-même. Donc qu'est-ce que ça cache en fait? At-tawakkul. C'est une personne qui s'en remet vraiment à Allah. Parce que les ulama, ils disent, celui qui appelle quelqu'un pour lui faire ruqya alors qu'il peut le faire lui-même, eh bien, quelque part qu'il le veuille ou non, son cœur il penche sur cette personne. Alors que celui qui guérit, c'est pas cette personne, mais c'est Allah. Lui, il fait que la cause. Et la cause, tu pouvais la faire toi-même. Donc c'est pour ça, ces 70 000, ils ne demandent pas à autrui qu'il leur fasse ruqya. La yaktawun, ils ne pratiquent pas la cautérisation. C'est quoi le rapport entre la cautérisation et compléter le tawhid? Est-ce que ça veut dire, donc là je vous pose la question, ils ne pratiquent pas les soins médicaux parce qu'ils s'en remettent à Allah pour guérir, sans pratiquer des soins médicaux? C'est ça ou pas? Pourquoi c'est pas ça? Voilà, parce qu'en fait, comme il a dit le frère, c'est parce que c'est spécialement pour la cautérisation, c'est parce que c'est un soin que le prophète a détesté. Donc ça veut dire que ces gens-là, plutôt que de se soigner par quelque chose que le prophète a détesté, il le délaisse et il faut confiance à Allah. Contrairement au reste des soins et des médicaments que le prophète il n'a pas détesté. C'est quoi le jugement? Les ulama ils disent c'est licite de les prendre, d'autres ils disent c'est préférable. Et c'est ça le vrai avis. Parce que le prophète il a dit un ordre, il a dit Tada'u ya ibad Allah. Fa'in Allah ma anzala da'an. Il anzala ma'ahu dawa. Dans la signification du hadith, le prophète il a dit soignez-vous aux serviteurs d'Allah. Donc c'est un ordre qui veut dire l'istihbab, c'est préférable de le faire. Il a dit parce qu'Allah n'a pas descendu une maladie sans lui descendre un remède. Le connaît qui le connaît et l'ignore qui l'ignore. C'est-à-dire le prophète il a recommandé. Donc à partir de là, on ne peut pas dire que c'est juste licite de se soigner, c'est même préférable. Si tu fais ça avec l'intention et l'esprit que tu es en train d'obéir au prophète et de suivre sa recommandation, ta simple mise en application de ça et le fait que tu vas prendre des médicaments et des soins, c'est une ibada. Parce que c'est un acte qui plaît à Allah. C'est quoi la définition de l'ibada? On avait dit, c'est les actes qu'Allah aime et agrée. Et là, si le prophète il nous l'ordonne, c'est que Allah l'agrée ou pas? C'est qu'Allah l'agrée. Donc si Allah l'agrée, si je le fais pour ça, ça devient une adoration. Donc, ce qui est voulu par là, ça ne veut pas dire que c'est des gens qui ne se soignent pas. Et ils font confiance à Allah. Ça serait une erreur. C'est un manque de tawakkul. C'est pas un vrai tawakkul. Parce que le tawakkul, il y a dedans le fait de faire les causes. Mais ce qui est voulu, c'est spécialement la cautérisation. Ils s'en écartent parce qu'ils savent que le prophète, il l'a détesté.
Ça existe en ce moment, à notre époque.
Forcément, chez les Bédouins ou chez les Touaregs, ou je sais pas, ça doit exister. Mais en France, je ne sais pas si. Allah, je ne connais pas ça en tout cas. Je ne sais pas. Allah, je ne sais pas. Chouaib, il dit au bled, ça existe. Chez les Rifs ou partout. Donc, Et ensuite il dit wala yatatayyarun, et ils ne pratiquent pas l'augure. Donc l'augure, on avait expliqué ce que c'est la superstition. Donc pourquoi? Parce que leur tawakkul, il est complet. Parce qu'en fait, une personne, et tatayyur, c'est du shirk, comme ça a été cité dans le hadith. Qu'est-ce qui fait que le fait de croire, par exemple, que si je me lève du pied gauche, la journée, elle va être mauvaise, en quoi c'est du shirk? C'est une croyance non fondée, d'accord. Mais shirk, ça veut dire associé à Allah. En quoi c'est associé à Allah? Non, même pas, parce que la personne, si tu lui demandais est-ce que c'est ton pied gauche qui fait que ta journée va être mauvaise, il va dire non. Il va dire ça, c'est juste un signe comme quoi ma journée va être mauvaise. Donc en quoi c'est du politisme, de l'associationnisme? C'est en fait, c'est parce que tu as déclaré une réalité, c'est-à-dire tu as déclaré quelque chose comme existant dans la réalité qui n'existe pas. C'est-à-dire que tu as dit, celui qui se lève du pied gauche, dans la réalité, sa journée sera mauvaise. Or ça, est-ce qu'Allah il a approuvé ça dans son livre? Ça fait partie de l'invisible. Est-ce qu'Allah il l'a fait descendre? Donc tu t'es permis d'affirmer une réalité qu'Allah n'a pas déclarée, qui contredit le Coran et la parole d'Allah. Donc tu as associé Allah de cette façon.
Parce que tu dis ce qui va se passer dans l'avenir, en fait, en disant ça. C'est ça que tu veux dire?
C'est pas seulement ça le problème. Parce que si maintenant je dis, il y a beaucoup de nuages, il va pleuvoir, est-ce que c'est ce que j'ai fait, ça contredit la parole d'Allah? Non. Parce qu'Allah, il nous a appris par l'expérience que quand il y a beaucoup de nuages, il va pleuvoir. Mais là, le fait que de ton pied gauche, ta journée sera mauvaise, ni l'expérience, elle le montre. L'expérience, quand j'ai l'expérience, ça peut être la science moderne, les expériences ou l'expérience des gens. Comme par exemple le fait que quand il y a plein de nuages, il pleut, ça tu vas pas me dire si tu as fait du shirk. Parce que c'est quelque chose, les êtres humains, ils le savent. Ça c'est la sunna d'Allah, on appelle ça la coutume d'Allah dans sa création. Mais ni l'expérience elle le montre, ni la religion. Donc c'est qui le montre? C'est des fausses croyances. Et donc tu as affirmé une fausse croyance, tu as affirmé une réalité qui n'en est pas. Et tu as rattaché le destin d'Allah, parce que le fait que ta journée soit mauvaise, c'est le destin d'Allah. Tu l'as rattaché à une cause qu'Allah n'a pas mis comme cause. Donc tu as associé à Allah quelque part. Donc c'est pas du grand polythéisme, mais c'est du polythéisme mineur. C'est comme ça, c'est de cette façon-là qu'on comprend pourquoi l'augure, j'espère que j'ai bien expliqué, et la superstition, c'est une sorte de polythéisme. Donc en fait, quand il dit à la fin et ils s'en remettent à Allah, en fait, ça, ces trois choses, c'est une manifestation de leur remise en confiance en Allah. Non, il n'y a pas de... Ouais, mais pas dans le fait que tu te lèves, qu'est-ce qui fait que tu dois commencer par là où Aïcha l'a dit, radiallahu anha, كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم أو التيمم في تناعله. Donc le prophète il aimait commencer par la droite, في تناعله, c'est-à-dire dans le fait de mettre ses chaussures ou les sandales. وترجله, c'est-à-dire dans le fait de se peigner, il peignait d'abord le côté droit et ensuite le côté gauche. Et dans toutes ses affaires. Mais les ulama ils disent ça c'est dans les affaires qui comportent at-tazyin ou at-takrima, c'est-à-dire dans les affaires où il y a quelque chose de la beauté, quelque chose de bien, d'honorable. C'est pour ça qu'ils ont dit rentre à la mosquée, tu rentres du pied droit, parce que la mosquée c'est quelque chose d'honorable. Et les toilettes, tu vas faire l'inverse, tu vas rentrer du pied gauche pour pas rentrer du pied droit. Mais maintenant, descendre de ton lit, c'est honorable ou pas honorable? C'est rien du tout. Ça, c'est... Ouais, voilà, bien sûr, ça c'est clair. Quand tu te déchausses, tu commences par la gauche, etc. Donc, le muhim, c'est qu'en fait, c'est soit...
Est-ce qu'il y a des signes par rapport à l'augure, des signes d'Allah ou...
C'est-à-dire...
Est-ce qu'on peut croire? Est-ce que si Allah il nous fait des choses pour ne pas faire ou... Est-ce que c'est de l'augure ça ou pas? Est-ce qu'on peut croire à ça ou pas?
Par exemple, tu dois, je sais pas moi, tu dois faire une muqabala et tu sur la route tu as un accident, alors tu te dis ouais, peut-être c'était pas la bonne femme. Si tu as fait salat et istikhara, Allahu a'lam, je n'aurais pas de réponse. Ça peut être, parce que quand tu fais salat et istikhara, ça veut dire que tu as demandé à Allah que si cette chose elle est un bien, il te la facilite. Donc forcément, s'il y a plein d'embûches, ça peut être un signe comme quoi Allah il veut pas te faciliter. Et que donc, c'est pas un bien pour toi. Ça, c'est quand tu as fait l'istikhara. Maintenant, quand tu n'as pas fait l'istikhara, je ne vois pas à quoi ça serait assigné. Non, ça, ça joue pas. Non, parce que le muhim, c'est que toi, tu remets à Allah. Et si toi, tu comprends pas, lui qui est là, c'est pas qu'il comprend, mais le mal, il va le prendre, il va comprendre. Ce qu'il voulait, c'est ça, tu vois. C'est pas question de comprendre ou quoi. C'est question que lui, il va. Le djinn, il va. Le Coran, il va lui faire mal. Ça va le brûler de toute façon. C'est vrai que ça peut jouer, ouais. Parce que dans la ruqya, ils disent. Parce que de. Ouais, c'est vrai, ouais. Parce que dans la ruqya, ils disent la concentration, le tawakkul, il joue sur l'effet que ça va avoir sur le djinn. Et donc, si tu t'es moins concentré et ton attention, elle peut être ailleurs, c'est sûr que ça peut être moins fort, quoi. Ça peut avoir moins d'effet. Après, ça ne veut pas dire que c'est interdit de demander à quelqu'un de faire ruqya. Ça veut dire que si tu espères être dans les 70 000, il vaut mieux éviter ça. Mais si vraiment tu en as besoin, tu peux demander à un frère. Si par exemple tu ne sais pas lire l'arabe, donc tu vas galérer pour etc. Ou alors le truc il a trop d'emprise sur toi, dès que tu lis un peu, ça y est, il t'empêche. Donc tu sais que tu t'arriveras jamais à te soigner. Ouais, bien sûr. Mais le muhim, c'est que ce soit du Coran. C'est ça surtout. Non, parce qu'en français, c'est pas la parole d'Allah. القرآن القرآن عند أهل السنة والجماعة هو كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل يبدأ بالفاتحة ونهايته سورة الناس. C'est-à-dire le Coran, la définition du Coran, c'est la parole d'Allah qu'il a révélée, qu'il a fait descendre par l'intermédiaire de Jibril à Muhammad صلى الله عليه وسلم. Ça commence par Fatiha, ça finit par سورة الناس. Donc le français, c'est pas le Coran. C'est une traduction du Coran, mais ça ne marchera pas.
Dans ce cas, le fait de lire le Coran français, c'est pas le même âge, parce que en arabe, tu as une lettre avec.
Le hadith, il parle de celui qui lit le Coran. Celui qui lit le Coran français, il n'est pas en train de lire le Coran. Il est en train de lire une traduction du Coran. Donc il peut avoir une récompense, ça c'est sûr. Mais est-ce qu'elle est la même que celui qui lit le Coran? Ça veut dire que pour chaque lettre, il a une récompense. On ne peut pas le dire. Allahu a'lam, on ne sait pas ça.
Celui qui l'écoute, c'est une forme de repli ou quoi?
Ouais, écouter le Coran aussi, ça fait du mal au djinn. Ouais, ça. Tout ça. Si tu as l'intention de te soigner en faisant ça. De façon générale, les djinns, ils ne supportent pas d'écouter. Tu vois même un malade des Mejnoun, il y a le Coran à côté, il fait comme ça. Donc, même écouter, ça peut marcher. Ça peut avoir de l'effet.
C'est vrai pour les membres à cœur aussi. Ils disent que commencer par le pied droit, d'accord. C'est des choses spécifiées par le prophète. Par exemple, les chaussures, d'accord.
En fait, Aïcha, elle a cité les chaussures, ouais. Quand ils se peignent la tête. Ouais. Et après, elle a dit, et dans toutes ses affaires. Mais les ulama, ils ont expliqué qu'est-ce que c'est dans toutes ses affaires. Comme elle a cité avant le fait de mettre ses chaussures. Donc, c'est s'habiller, c'est quelque chose de bien. Ouais. C'est, parce que c'est une certaine beauté. Le fait de se peigner, c'est de la beauté aussi. Donc quand elle a dit toutes ses affaires, tout ce qui l'occupe, hein? Allah alam. Je sais pas, Allah alam.
Commencer par une chose à faire, comme rompre le jeûne. Manger une
date, trois dates. Non, mais là tu me parlais de commencer par la droite.
Ouais, mais je te parle aussi pour les choses à faire. C'est des choses spécifiques ou bien pour tout?
Ah, ça, je sais pas. Si c'est pour tout, les choses à perdre. Ça, je sais pas, Allah. Je sais pas. Yuhibbu l'witr. Parce qu'en fait, ouais, il y a un hadith qui dit qu'Allah, il aime l'impair.
Je vais te donner des dates et je t'en donne les deux.
Mais est-ce que les ulama, ils ont expliqué ce hadith en disant que dans tout, il faut appliquer l'impair? C'est fort probable, mais je l'ai pas vu, donc je peux pas te dire, ouais, tu vois. Je peux pas. Si un frère est connu, il va le voir à la fin et Inch'Allah. Mais je sais pas moi. Ça, en fait, j'ai pas lu. C'est fort possible parce que le hadith il dit bien. Allah il aime ce qui est impair. Mais si j'ai pas lu dans un truc, je peux pas te dire quoi.
Encore on embrasse le frère Jawaïd. On fait trois.
Ça je sais pas d'où ça vient.
Allah
alam. C'est quoi, ça vient d'où?
C'est vrai que, on le fait comme ça, sans preuve, en fait.
C'est une coutume, ça peut être considéré comme une coutume. Les coutumes, t'as pas besoin de preuves pour les faire. Comme il y a des trucs où il n'y a pas besoin de preuves, tu vois. C'est manger sur une table, est-ce que tu as besoin d'une preuve? Non, c'est une coutume, tu vois. À l'époque, ils mangeaient par terre, maintenant on mange sur des tables. Bon, c'est pas ça, c'est une question de coutume. Il y a beaucoup de choses comme ça. Donc si maintenant on fait le truc trois fois, ça peut être par exemple chez un peuple, ils font tous comme ça. Maintenant tu prends par exemple les Saoudiens à Médine, quand ils se voient, ils font trois bis comme ça sur le côté, ils font comme ça. Tu vas lui dire c'est une bid'a, d'où ça vient ton deuil? Non, c'est une coutume. Les Émiratiens, ils se font comme ça avec le nez. Et puis il y en a même, ils font en face comme ça, mais sans se toucher. Hein? Il y a des Saoudiens aussi, ils font ça. Il y en a, ils font en face, mais sans se toucher. Il y en a, ça c'est des coutumes. Les Soudanais, quand ils se font, ils serrent la main, après ils font ça. En même temps, sur l'épaule de l'autre. Donc ça, c'est pas des trucs où il y a besoin de dalil. Si tu connais ce que les sahaba ils faisaient et que tu veux leur ressembler, alhamdoulilah, c'est toujours mieux. Même dans les coutumes. Voilà, faire ça par exemple. Il y en a, ils disent aux frères salafis, non, fais pas ça. Pourquoi? C'est une coutume. En ce moment, tu vas dire aux Soudanais, fais pas ça. Tu vas dire aux Saoudiens, fais pas ci. Ça marche pas. Ça. À l'époque du prophète salafis, ce qui était connu, c'est serrer la main. En se voyant et en se séparant aussi. Comme il a cité Cheikh Albani au début de Sisila Sahira, il serrait la main, à une main. Après aussi, par exemple, le fait que quand il se voyait pas pendant un moment ou pendant le voyage, Kanu ya'taniqun, c'est-à-dire il faisait une accolade. Et combien de fois, c'est pas précisé. Il faisait une accolade. Ou le jour de l'Aïd aussi, il faisait une accolade. Et il se disait, c'était quoi? Taqabbalallah minna wa minkum. Donc ça, des fois, ça veut dire en fait, ça fait partie des coutumes. Mais même dans les coutumes, si tu peux essayer de ressembler au prophète sallallahu alayhi wa sallam, aux sahaba, c'est mieux. C'est pour ça que Anas radiallahu anhu, il disait, je voyais le prophète, il aimait la courgette, alors moi j'aimais la courgette. On peut pas dire aimer la courgette, c'est une sunna dans le sens, c'est un ordre de la religion. Non, ça c'est quelque chose du coutumier. Mais les salafs, ils suivaient le prophète même dans ces choses-là. Si ça cause pas un désagrément ou alors par exemple le fait que maintenant tu vas dire moi je vais suivre le prophète dans tout, donc je vais m'habiller comme le prophète, et tu vas mettre par exemple une cape, parce que l'habit le plus répandu à l'époque c'était pas le qamis, c'était la cape. Il mettait une cape qui rabattait comme ça un peu, c'est pas pour dénigrer, c'est juste pour que vous compreniez c'est quoi. C'est comme dans les westerns, ils appellent ça les ponchos. Même en France, à un moment, c'était la mode de poncho. C'est un grand tissu, tu le mets comme ça et tu le remets derrière. Oh, tes bras, ils ne dépassent pas. Et en bas, ils mettaient un izar. Billah, est-ce que maintenant, tu dis, moi, je veux ressembler au prophète et tu vas faire ça en France? Appelle un alim et dis-lui, je vais mettre une rida et un izar et un turban en France. Et dis-moi ce qu'il va te dire. Il va te dire, taqillah yahi, il ne faut pas faire n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'il faut peser entre ça et l'urf aussi. L'urf, c'est la coutume des gens. Comme par exemple certains ulama, ils ont cité que c'est une coutume islamique de se couvrir la tête. Et en Andalousie, à une certaine époque, même les ulama, ils se couvraient pas la tête. Alors que s'ils avaient fait ça dans les pays arabes, ils seraient tapés la honte. Même maintenant en Arabie Saoudite, c'est un peu, ça se fait pas de... Tu vas dans un cours ou tu vas en classe et t'as pas ta tête couverte, c'est la honte. Et pourtant en Andalousie, à une certaine époque, les ulama eux-mêmes, ils mettaient rien sur leur tête. Pourquoi? Parce que c'était la coutume. Donc il y a des affaires, il faut différencier entre sunna et ce qu'on appelle al-urf. Al-urf, c'est la coutume. Et ce qu'on appelle al-sunna. Donc en fait, des fois, il ne faut pas que tu fasses quelque chose en croyant que c'est une sunna. Et en fait, tu as seulement pris une coutume de l'époque du prophète et tu l'as fait dans un contexte où elle n'a rien à voir. Et tu es bizarre, même pour les musulmans. Comme quelqu'un qui viendra prendre un certain vêtement islamique qui existe dans un certain pays et il fait ici. Où les gens ils sont d'origine algérienne marocaine, ils connaissent la taqiya, ils connaissent la djellaba, ils connaissent le qamis, mais si tu leur mets une rida ou un izar, ils vont dire, les vieux à la mosquée vont dire, wesh, il y a un truc qui ne va pas, tu vois. En plus, ouais, même dans ça, le prophète, la femme du prophète, elle a dit, le vêtement préféré du prophète, c'est le qamis. Est-ce que ça veut dire que c'est une sunna, dans le sens, c'est légiféré de mettre le qamis? Non. Ça veut dire que si tu veux, c'est comme la courgette. Parce que les vêtements et la bouffe, tout ça, ça c'est des habitudes. Si tu veux ressembler au prophète dans ça, en mettant le qamis, tu peux, t'as une récompense. Mais dire que c'est préférable, appelle même un savant et dis-lui, est-ce qu'il est préférable dans la religion de mettre le qamis? Il va te dire, par exemple, si c'est pour ressembler au prophète et tout, ouais. Et ça dépend aussi du contexte où tu te trouves. Tu vois, c'est parce que le prophète... Mouhim, il faut bien différencier des fois la sunna et les coutumes. Il y a des choses, c'est des coutumes. Tu peux pas parler de bid'a dedans. Comme comment on salue et tout, ça c'est des coutumes. Donc faut pas dire au maghrébin, par exemple, pourquoi tu fais ça quand tu as prié, quand tu serres la main, ou pourquoi tu fais ça... À ce moment-là, quand tu appelles cheikh au téléphone et qu'il dit « Alaykoum salam, hayyakallah », ben dis-lui, d'où tu sors ton hayyakallah? Ceux qui appellent les choukhs, ils le savent. Est-ce qu'ils disent pas à chaque fois hayyakallah? Hayyakallah, ça veut dire qu'Allah te salue. Donc dis-lui, ben d'où ça sort hayyakallah? C'est pas une sunna, il n'y a aucun hadith, aucun athar avec hayyakallah. Mais c'est une coutume. En Arabie Saoudite, ils le disent tout le temps ça, hayyakallah, hayyakallah, hayyakallah. Donc c'est une habitude. Donc il faut différencier des fois les habitudes et la sunna qui est dans la religion. C'est de, et tout ce qui est vêtements, nourriture et tout, ça c'est des coutumes. Et tout ce qui est adoration, vente, mariage, divorce, ça c'est la religion. Et pareil, par exemple, tu vas te couvrir la tête avec une taqiyya. Quelqu'un il peut te dire, bah c'est pas une sunna. Ce qui était connu à l'époque du prophète, c'était le turban. Ou alors le truc comme ça. Quelqu'un il peut te dire, bah ce qui était connu à l'époque du prophète, c'était le turban. Donc en fait, toi ce que tu veux faire par là, c'est la coutume des musulmans. Pour avoir un aspect musulman. Ou alors tu dis parce que le prophète il se couvrait la tête, alors moi j'aime me couvrir la tête, pas comme lui il le faisait parce qu'il mettait un turban, mais comme les musulmans ils font autour de moi, donc moi je mets une taqiyya simplement pour le fait de se couvrir la tête. Mais si on parle de couvrir la tête, le prophète il mettait pas de taqiyya. Alors, je sais même pas si ça existait. Ce qu'il mettait, c'était des turbans. Le turban, l'imama, ça veut dire un truc, c'est un truc que tu fais tourner autour de la tête, c'est ça qu'on appelait l'imama en arabe. Parce que tu ammimu bihi ar-ras, et il la faisait passer ici, ou alors il la faisait tomber derrière, etc., etc. Donc bien différencier les coutumes. Maintenant appelle un savant et dis-lui, j'habite en France, où même les musulmans, ils ne se couvrent pas la tête. Ceux qui se couvrent la tête, ils mettent des taqiyas. Et c'est pas connu le turban. Est-ce que je mets le turban au shir? Et dis-lui, et regarde ce qu'il va te dire. Allah alim. Mais il te dira non. Il dira parce que ça c'est une coutume. Elle n'est pas préférable. Et si les gens autour de toi ils la pratiquent pas, pratique ce qui est connu autour de toi, mais la taqiyya, mais etc., etc. Donc on s'est écarté du sujet, donc on finit vite fait. Il dit donc quand il a dit sabaqaka biha ukasha, c'est à dire ça sort du sujet, quand l'autre il a dit au prophète sallam, demande à Allah que je sois dans ses 70 000, et il lui a dit ukasha, t'as devancé. Ça fait partie du bon comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne lui a pas dit rassieds-toi, ou tais-toi, ou m'embête pas, ou quelque chose comme ça. Il lui a dit, regardez la parole, comment elle est, entre guillemets, elle est tranquille. Il lui a dit, non, Ukasha, il t'a devancé. Il lui a pas dit, non, je veux pas. Parce que le prophète, il ne voulait pas demander pour lui, pour certaines raisons. Mais il ne lui a pas dit ça, il ne lui a pas dit, je veux pas. Ou non, je ne demanderai pas pour toi. Il lui a dit, quelque chose qui passe bien, pour pas casser son cœur, il lui a dit, Ukasha, il t'a devancé. C'est une belle façon de renvoyer sa demande. Et c'était ça la façon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme dans Sahih Bukhari, quand des juifs y sont passés et ils ont dit Assam alaykum. Assam, ça veut dire al-maut. Ça veut dire ouais, la mort, que la mort soit sur toi. Et le prophète il leur a répondu Wa alaykum. Et Aïcha, elle a commencé à parler sur eux. Et le prophète il lui a dit, entre guillemets, il lui a dit de se calmer. Et Aïcha, elle lui a pas dit, t'as pas entendu ce qu'ils ont dit? Il a dit, je leur ai dit alaykoum. Ça veut dire c'est pas la peine d'en rajouter. Sale juif, sale porc, machin, maudit, etc. C'est pas la peine, ça sert à rien. Et s'il y en avait un qui avait le droit de le dire, c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que son nom est écrit dans leur livre. Et ils ont caché son nom et ils ont mécru en lui. Et pourtant, il leur répond juste, wa alaykoum, vous me dites la mort sur moi, moi je vous dis sur vous. Et en plus, il répond même pas assam. Il répète même pas le mot assam, il dit juste alaykoum. Et il dit à Aïcha de se calmer. Et nous maintenant, quand un kafir il nous dit barbique, c'est direct les insultes et tout. Donc c'est ça le bon comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les paroles. Après il a dit, المعنى الإجمالي للحديث. Donc la signification globale du hadith. يصف لنا حسين بن عبد الرحمن حوارا دار في مجلس سعيد بن جبير بمناسبة انقضاض كوكب في الليل. Donc حسين بن عبد الرحمن nous raconte un dialogue qu'a eu dans l'assise de Saïd ibn Jubayr à l'occasion d'une étoile filante. فأخبرهم حسين أنه شاهد انقضاضه لأنه لم يكن حين ذاك نائما. Donc حسين leur a dit qu'il avait vu cette étoile filante parce qu'il dormait pas. إلا أنه خاف أن يظن الحاضرون أنه ما رأى النجم إلا لأنه يصلي فأراد أن يدفع نفسه إيهام تعبد لم يفعله كعادة السلف في حرصهم على الإخلاص. Donc il dit, mais il a eu peur que quand il a dit moi je l'ai vu la nuit, les autres ils se disent il était debout la nuit parce qu'il priait. Il a eu peur que les gens ils pensent de lui qu'il faisait une adoration alors qu'il ne la fait pas. Parce que les salafs, tellement ils étaient accrochés à la sincérité. Ils ne veulent pas que les gens ils pensent du bien d'eux qu'eux qui n'ont pas fait. Alors il leur a dit, فأخبرهم بسبب الحقيقي ليقظته وأنه بسبب إصابة حصلت له. Donc il leur a dit qu'en fait la vraie cause c'était parce qu'il avait été piqué et non pas parce qu'il priait. Donc c'est l'inverse de nous maintenant. Donc toi t'as 3h du mat, t'es en train de regarder un match de basket, frère il t'appelle, Mashallah t'es en train de prier. Bah, Allah alam. L'inverse des salafs. فانتقل البحث إلى السؤال عما صنع حيال تلك الإصابة. Donc il dit, donc après ils ont commencé à parler de ce qu'il a fait par rapport à cette piqûre. فأخبر أنه عالجها بالرقية. Donc il a dit qu'il s'était soigné par la ruqya. فسأله سعيد عن دليله الشرعي على ما صنع. Donc Saïd ibn Jubayr lui a demandé la preuve religieuse de ce qu'il a fait. فذكره له الحديث الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في جواز الرقية. Donc il lui a mentionné le hadith où le prophète a rendu légiférer la ruqya. Donc qui est la parole de Buraïd ibn al-Husayb quand il a dit il n'y a pas de ruqya sauf pour l'ayn et l'humma, la piqûre. Donc quand, parenthèse, quand il a dit il n'y a pas de ruqya sauf pour le mauvais œil ou la piqûre, ça ne veut pas dire que la ruqya elle est permise que pour ces deux causes-là. La preuve, c'est que par exemple, Jibril il a fait la ruqya au prophète pour autre chose que l'ayn et l'humma, qui est la sorcellerie. Mais ça veut dire que la ruqya, elle est vraiment efficace, la plus efficace qui soit, quand elle est faite pour ces deux choses, qui sont l'ayn ou alors la piqûre. Je connaissais une personne par exemple qui était partie au marché, et la personne elle est belle de visage. Et beaucoup les gens ils la regardent. En revenant du marché, elle était KO, elle tremblait de partout. Donc elle s'est dit peut-être c'est à cause du regard. Elle a récité le Fatiha, Ayatul Kursi et trois versets une seule fois. Elle a soufflé dans ses mains, elle l'a passé sur tout son corps. Elle m'a rappelé juste après, elle disait, elle rigolait, etc. etc. La personne. Donc ça veut dire l'ayn, la ruqya pour l'ayn c'est très efficace. Ça marche vite.
Comme le compagnon dans le compagnon avait vu les jambes.
Voilà, ouais. L'histoire avec le sahabi qui avait des jambes tellement blanches. L'autre, il était étonné, etc., de la blancheur de son corps. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a ordonné de faire l'eau d'eau et de laver la personne avec ses ablutions. Et il a guéri aussitôt. Et le humma, pareil. Donc ça, c'est pour parler un petit peu. Moi, je connais une personne en Arabie Saoudite, personnellement. Son fils, il était à l'hôpital à cause d'une piqûre de scorpion. Donc ils l'ont appelé d'urgence et tout. Mais lui, alhamdoulilah, c'est un talib. Il est venu, il a resté un peu la fatiha, il a craché dessus. Et hop, et son fils il s'est levé, il est parti. Comme dans le hadith, sauf que là, c'est en vrai. C'est en direct. Donc ensuite, il dit... فَصَوَّبَهُ فِي عَمَلِهِ بِالدَّلِيلِ. Donc Saïd ibn Jubayr il a approuvé Abdurrahman Hussein sur le fait qu'il a agi selon une preuve. ثُمَّ ذَكَرَ لَهُ حَالَةً أَحْسَنَ مِمَّا فَعَلَ. Ensuite il lui a mentionné mieux que ce qu'il a fait. وَهِيَ التَّرَقِّي إِلَى كَمَالِ التَّوْحِيدِ بِتَرْكِ الْأُمُورِ الْمَكْرُوهَةِ مَعَ الْحَاجَةِ إِلَيْهَا. Et cette chose qui est meilleure, c'est le fait de délaisser c'est le fait de s'élever vers le tawhid complet en délaissant les choses qui sont détestables dans la religion malgré que tu en aies besoin. Donc ça c'est par rapport au fait de demander ruqya ou le fait de faire la cautérisation, ça rentre dans ça. Une chose dont tu as besoin mais comme elle est détestée tu la délaisses par confiance en Allah. توكلا على الله كحالة السبعين الألف الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. Donc comme c'est la situation des 70,000 qui rentrent au paradis sans compte et sans châtiment. حيث وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم يتركون الرقية والكي تحقيقا للتوحيد. Parce que le prophète il les a décrits comme étant des gens qui délaissent la ruqya et la cautérisation par réalisation du tawhid. وَيَأْخُذُونَ بِالسَّبَبِ الْأَقْوَى وَهُوَ التَّوَكُّلُ عَلَى اللَّهِ. Et ils prennent la meilleure cause dans ces cas-là, qui est la confiance en Allah. وَلَمْ يَسْأَلُ أَحَدًا غَيْرَهُ شَيْئًا مِنَ الرُّقْيَةِ فَمَا فَوْقَهَا. Et ils ne demandent rien à autre qu'Allah, que ce soit la ruqya, l'exorcisme ou quelque chose d'autre. مناسبة الحديث للباب أن فيه شيئا من بيان معنى تحقيق التوحيد وثواب ذلك عند الله تعالى. Donc pourquoi il a mis ce hadith? C'est parce que dans le hadith il montre quelques, il y a un peu de choses qui montrent qu'est-ce que c'est que réaliser le tawhid et la récompense qui s'ensuit. Donc ما يستفاد من الحديث, on va finir par ça, qu'est-ce qu'on profite du hadith? فضيلة السلف وأن ما يرونه من الآيات السماوية لا يعدونه عادة بل يعلمون أنه آية من آيات الله. Ça c'est important. Le mérite des salafs est le fait que ce qu'ils voient comme signe dans les ciels, dans le ciel, ils ne le comptent pas comme quelque chose de commun. Maintenant, si tu dis une étoile filante à quelqu'un, il te dit bah c'est un déchet qui vient d'une planète et donc il fonce à telle vitesse, etc. On ne dit pas que c'est faux, peut-être c'est vrai. Mais nous, eux, comment ils le voyaient? Ils le voyaient avec l'œil de la religion. Ils voyaient que ça, c'est un signe d'Allah. Donc en l'occurrence, par exemple, c'est une étoile filante qui vient frapper un shaitan. Ça veut dire que là, il a parlé dans son assise religieuse du fait que l'étoile, elle soit tombée, etc., etc. Et ça, c'est comme pour, par exemple, ce qui s'est passé en Indonésie, le tsunami, etc. Les shoyukh, ils mentionnent qu'il ne faut pas dire ouais, ça c'est un simple phénomène naturel qui est arrivé par hasard à ce moment-là parce qu'il y a des secousses sismiques, etc. Même si c'est vrai, il est provoqué par des secousses sismiques et tout. Mais ces secousses sismiques et tout, c'est qui les a faites? C'est qui le créateur de ça? C'est Allah. Et Allah, est-ce qu'il a fait ça par hasard? Non. On doit croire que c'est pour une cause précise, pour éprouver les gens ou pour châtier les gens. Donc les salafs, ça c'était ça, ils voyaient, quand ils regardaient dans les cieux et la terre, ils appliquaient la parole d'Allah. Comme quoi, le verset vous connaissez, dans les cieux et la terre, etc. Il y a des signes pour ceux qui réfléchissent. ثانياً حرص السلف على الإخلاص وشدة ابتعادهم عن الرياء. Donc deuxièmement, le fait que les salafs étaient accrochés à la sincérité et ils étaient loin de l'ostentation. Comme celui qui a dit aux gens, j'étais pas levé parce que je priais. ثالثا طلب الحجة على صحة المذهب وعناية السلف بالدليل. Donc troisièmement, le fait de demander une preuve sur l'authenticité du madhhab, c'est-à-dire de l'opinion de la personne, et l'importance que donnaient les salafs à la preuve. Donc ça c'est pareil pour dans les madhhab, c'est-à-dire que la personne ne se suffit pas de suivre un madhhab malikite ou hanbalite ou shafi'ite dans ce qu'elle fait dans la religion. Même si elle peut faire ça au début pour apprendre, pour que ce soit facile pour elle, mais après elle doit chercher le dalil, elle doit chercher le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et vous remarquez que avant l'imam Malik, il n'y avait pas d'école malikite. Et c'est pas l'imam Malik qui a dit aux gens, voilà mon école, suivez-la. Au contraire, l'imam Malik qui disait, si ma parole, elle contredit la parole du prophète, vous la jetez contre le mur. Et l'imam Shafi'i disait, si je vous dis quelque chose qui contredit le prophète, alors que je le sais, c'est que je suis devenu fou. C'est les gens après. Pourquoi ils ont noté les fatawas de l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Abu Hanifa? Par facilité. Et ceux d'après, donc, ils ont suivi ces fatawas, quelles qu'elles soient. C'est-à-dire, ils ont dit, par exemple, moi, je suis les fatawas de l'imam Malik. Et c'est tout. Et il ne sort pas de ça. Par facilité. Mais ce qu'il nous est demandé, ce n'est pas de ça. C'est de suivre le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et si c'était ça qui nous était demandé, alors comment ils faisaient les gens avant l'imam Malik? Comment il faisait Saïd ibn Jubayr, dont on a parlé ici, qui est mort en 93, Donc il est mort, si je ne me trompe pas, 3 ans avant que l'imam Malik y naisse. Donc, et il est mort 13 ans après que Abu Hanifa, il avait 13 ans quand lui il est mort. Donc comment il fait? Donc ça prouve que la vraie voie, c'est de suivre le dalil, la preuve. C'est pas de suivre le madhab.
Rabi'an, mashru'iyyatul wuquf 'inda ad-dalil wal 'amal bihi wa anna man 'amila bima balaghahu faqad ahsan.
Donc quatrièmement, qu'il est légiféré de s'arrêter au dalil et d'appliquer le dalil, la preuve, et que celui qui agit selon ce qui lui est parvenu, il a bien agi. Et ça aussi, ça nous aide par rapport aux divergences, parce que des fois dans une question, tout ce que tu connais, c'est ce qu'il a dit, par exemple Cheikh Al-Uthaymin, tu connais rien d'autre, mais tu connais ce qu'a dit Cheikh Al-Uthaymin avec sa preuve. Donc là, tu as le droit d'agir selon ce qu'il a dit, même si tu n'as pas entendu ce qu'il a dit, ce qu'ils ont dit les autres ulama. Si c'est ça qui t'est parvenu, et pour l'instant il t'est pas parvenu d'autre, tu suis la science qui t'est parvenue. À tel point que certains ulama, ils disent, un musulman, quand il commence à apprendre, il a le droit de prendre Sahih al-Bukhari et d'appliquer ce qu'il y a dedans, comme ça, sans chercher les divergences. Parce que Sahih al-Bukhari, pour se, aller lire dedans, et vous vous rendrez compte que c'est surtout un livre de fiqh. C'est un livre de hadith, mais les chapitres qui met l'imam al-Bukhari et les paroles de salaf qui ramènent à côté montrent que c'est un livre de fiqh. Donc si au début, pour apprendre, avant de connaître les divergences et d'étudier tous les hadiths qui sont rapportés dans les chapitres, tu suis Sahih al-Bukhari, bien sûr avec une explication, parce que si tu suis tout seul, tu peux te tromper, et ce qui est le jugement de l'imam al-Bukhari avec le hadith, t'as une hujja, t'as une preuve dans ce que t'as fait, t'auras pas fait n'importe quoi.
Khamisan tabligh al-ilmi bitalattufin wa hikma.
Cinquièmement, le fait de transmettre la science avec douceur. Regardez comment Saïd ibn Jubair, il lui a dit. Non, il lui a pas dit non, ton hadith, j'ai mieux, ou alors Yemansour, ou alors t'es un ignorant, tu connais même pas ici. Il lui a dit, t'as bien fait de suivre ton hadith, mais j'en ai un meilleur. Ça veut dire j'en ai un qui va t'amener à une action meilleure que ce que tu as fait.
Sadisan ibahatur ruqya. Sixièmement, qu'il est licite, de l'exorcisme est licite.
Sabian, irshadu man akhadha bi shay'in mashru'in ila ma huwa afdalu minhu.
Septièmement, le fait de diriger quelqu'un qui a pris quelque chose, de légiférer vers ce qui est mieux que ça.
Donc ce serait par exemple l'exemple de quelqu'un qui te dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit à l'homme de se laver dans l'eau qui reste du lavage de la femme. Ça, c'est un hadith authentique. Et la personne, elle connaît que ce hadith. Donc elle dit qu'elle considère ça que c'est haram. Et elle a un dalil dans ça. Mais il y a un hadith où Abdullah ibn Abbas, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est lavé avec le reste de l'eau avec laquelle s'était lavé Maïmouna, sa femme. Et quand elle lui a dit, j'étais en état de janaba et je me suis lavé avec cette eau et c'est le reste, il lui a dit quoi? Inna al-ma'a la yujnib. L'eau n'est pas en état de janaba. L'eau ne porte pas la janaba. Ça veut dire que quand le prophète il a interdit de faire ça, c'était juste un conseil. C'est-à-dire c'est al-karaha. Il vaut mieux l'éviter. Mais si tu le fais, il n'y a pas de mal. La preuve, le prophète l'a fait. Donc toi, tu connais l'autre hadith qui montre la signification de ce premier hadith. Donc là, il est bon de lui montrer à la personne. Comme il a fait Saïd ibn Jubayr. Il lui a montré un autre hadith qui complète le premier. Qui dit comme quoi la ruqya elle est que pour le mauvais œil et la piqûre. Et lui, il lui a montré un autre hadith qui lui montre aussi qu'il n'est pas bon de demander, qui fait partie de tawakkul, de ne pas demander à ce qu'on te fasse ruqya et de se la faire soi-même. Pareil pour, par exemple, une personne, elle est dans l'école malikite par exemple, et elle agit selon un hadith, mais la parole du prophète elle est contraire à l'école malikite dans ce chapitre. Donc il est bon, comme il a fait ça, tu lui montres la vérité dans le sujet, etc. etc.
Thaminan fadilatu nabiyyina Muhammadin haythu 'uridat 'alayhi al-umam sallallahu alayhi wa sallam.
Donc un des mérites du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith, comme quoi on lui a montré les différentes communautés.
Anna al-anbiya'a mutawafituna fi 'adadi atba'ihim.
Donc le fait que les prophètes divergent dans le nombre de ceux qui les suivent. Et ça montre que la vérité, elle n'est pas avec le nombre de personnes. Et au contraire, Allah il dit dans le Coran, وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. Si tu suis la plupart des gens qui sont sur terre, ils vont t'égarer du chemin d'Allah. Donc la vérité, elle est rarement avec la majorité, et elle est souvent avec la minorité. Surtout que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Bada al-Islam ghariba, l'islam a commencé étranger, wa sayaoudu ghariban kama bada, il redeviendra étranger comme il a commencé. Fatouba lil-ghuraba, donc bonheur aux étrangers, récompense aux étrangers. Et donc c'est pas dans le fait de regrouper, le but de la da'wah c'est pas de regrouper un grand nombre sans leur apprendre quoi que ce soit, juste pour regrouper de la masse et regrouper de l'argent, c'est pas ça. Parce que la preuve, c'est quand le prophète, il a vu un prophète avec 10 hommes, il a vu un prophète avec un homme, il a vu un prophète sans personne. Est-ce que ça veut dire que ce prophète, il était dans l'égarement? Les prophètes, ils sont pas dans l'égarement. Nous, on croit que les prophètes, ils ont tous rempli leur message. Ça veut dire que malgré qu'il ait rempli son message, les gens, ils l'ont pas suivi. Et donc ça ne doit pas te pousser à dépasser les limites de la religion pour faire rentrer les gens dans l'islam. Donc tu te dis, ça suit. Bon, je laisse pousser ma barbe et ça repousse les gens de l'islam. Bah, je vais la tailler. Ou alors, bon, je parle que de tawhid et de sunna. Bah, on va parler un peu d'autre chose pour attirer les gens. Ou alors, bon, je fais une conférence. Je vais appeler un tel, même si c'est un innovateur. Je vais l'appeler faire un discours avant, comme ça les gens ils vont venir. La da'wah, c'est pas comme ça. Nous, on dit pas, la fin justifie les moyens. On fait ce qu'on veut. Pour le principal, c'est de regrouper les gens. C'est pas ça. Les prophètes, ils s'en tenaient à ce qu'Allah il a dit, que les gens ils viennent ou pas, c'était pas ça le but entre guillemets.
Alors qu'est-ce qu'un prophète qui était tout seul?
Non, il n'a pas dit. Ensuite, al-raddu ala man ihtajja bil akthar wa za'ama anna al-haqq mahsur fihim. Donc ensuite il dit, ici il y a une réplique à ceux qui disent que la vérité est avec le plus grand nombre et qui prétend que la vérité est réduite à ceux qui ont le plus grand nombre. Et ça nous aide aussi dans le fiqh. On comprend par là que dans le fiqh, il y a toujours dans les questions de divergence, ils disent qawlul jumhur, c'est-à-dire l'avis de la majorité. Ils ont dit que l'avis de la majorité, ça ne veut pas toujours dire que c'est le bon avis. Dans certaines questions, l'avis de la majorité, il est contraire au tahqiq, c'est-à-dire à ceux qui étudient la question avec ses preuves. Donc il ne faut pas se fier à l'avis de la majorité. Surtout que ce qui est voulu souvent dans la majorité, c'est les élèves des écoles, Hanbalite, Shafi'ite, Hanafite, et non pas les imams eux-mêmes. Des fois, ils te disent, la majorité a dit, ce qu'ils veulent dire par là, c'est les savants des écoles juridiques qui sont venus 5 ou 600 ans après le prophète. Ceux-là, en majorité, ils sont dans tel avis. Mais si tu regardes les salafs, la majorité, elle est dans l'autre avis, c'est-à-dire les tabi'ines et les imams. Un exemple, le fait que l'eau, donc à la base l'eau elle est pure. Si une impureté tombe dans l'eau, qu'est-ce qu'elle devient l'eau? Pure ou impure? L'avis, le vrai avis dans la question, comme il l'a dit Ibn Taymiyyah, etc., c'est que l'eau elle devient impure que si son odeur ou son goût ou sa couleur change par cette impureté qui est tombée dedans. Par exemple, je te prends 5 litres d'eau et un petit il vient et il fait pipi dedans et tu vois l'eau elle devient jaune, ça y est l'eau elle est impure, tu peux pas la boire et tu peux pas faire les ablutions avec, qu'elle soit petite ou grande quantité. Et l'avis de la majorité, si tu lis dans les livres, ils te disent c'est l'avis de la majorité, ça veut dire la majorité des fuqaha, ils disent ça c'est vrai que si l'eau elle atteint une certaine quantité, si elle atteint une certaine quantité il faut qu'elle change pour être impure. Mais si elle est en petite quantité, il suffit que la najasa tombe dedans pour qu'elle devienne impure. Donc il te dit, ça c'est l'avis de la majorité. Mais si tu regardes les salafs, l'imam Malik il disait le contraire. Les gens du hadith ils disaient le contraire. Et c'est seulement l'avis de l'imam al-Shafi'i, rahimahullah. Et c'est un avis rapporté selon l'imam Ahmed. Et un avis rapporté selon Abu Hanifa. Donc on ne peut pas dire que c'est l'avis de la majorité. Et surtout, ça n'a pas été rapporté des sahaba. Il n'y a pas été rapporté d'un sahabi comme quoi, quand l'eau elle est en grande quantité, il faut qu'elle change pour être impure. Et si elle est en petite quantité, au simple contact de l'impureté, elle devient impure. Ça a été ramené d'aucun sahaba ni d'un tabi'i, mais de la génération d'après, comme l'imam Shafi'i. Anna al-wajiba ittiba'u al-haqqi wa in qalla ahluhu. Donc il est obligatoire de suivre la vérité, même si ceux qui adhèrent sont peu nombreux. Ensuite, Fadilatu Moussa alayhi salam wa qawmihi, le mérite de Moussa et de son peuple. Ensuite, Fadilatu hadhi al-ummati wa annahum aktharul umam ittiba'an nabiyihim sallallahu alayhi wa sallam, le mérite de cette communauté et le fait qu'ils sont ceux qui ont le plus suivi leur prophète en nombre. Parce que Moussa, beaucoup de gens l'ont suivi. Ils étaient un grand peuple. Et quand le prophète il a dit, il a vu un peuple encore plus grand qui était sa communauté. Ensuite, il dit, Fadila tout à fait les tawhid wa thawabi, le mérite de la réalisation du tawhid, dont on en a déjà parlé. Ibahatul munadharati fil ilmi wal mubahati fil nusus al-shar'i lil istifadati wa izhar al-haq. Le fait qu'il est licite de débattre dans la religion et à propos des textes religieux pour profiter dans la science et pour montrer la vérité.
عمق علم السلف لمعرفتهم أن المذكورين في الحديث لم ينالوا هذه المنزلة إلا بعمل.
Donc la profondeur de la science des salafs qui ont compris que ceux qui sont mentionnés dans le hadith les 70 000 n'ont atteint cette position que par les actes.
حرص السلف على الخير والمنافسة على الأعمال الصالحة.
Donc le fait que les anciens étaient accrochés au bien et à la compétition dans les bonnes actions. Parce que Kacha, qu'est-ce qu'il a fait quand le prophète il lui a dit ça, il a dit le hadith, il s'est levé tout de suite en disant fais que je sois parmi eux. Donc le fait que de délaisser la ruqya et la cautérisation est parmi la réalisation du tawhid. Et Allah alim, ce qui veut dire ici, c'est le fait de demander la ruqya.
طلب الدعاء من الفاضل في حياته.
Donc il est licite de demander à quelqu'un de vertueux qu'il te fasse une dua pour toi pendant qu'il est vivant. Parce que Ukasha, il a dit au prophète Hassan, invoque Allah pour moi. Donc il n'est pas mauvais. Si tu connais un homme dont tu penses qu'il est un homme pieux, tu peux lui dire, fais une dua pour moi. Ce n'est pas interdit.
علمٌ من أعلام علمٌ من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم حيث أخبر أن عكاشة من السبعين الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب فقتل شهيدا في حروب الردة رضي الله عنه.
Ici il y a un signe de la prophétie, parce que le prophète il a dit à Ukasha, toi tu seras parmi les 70 000 qui rentrent au paradis sans châtiment et sans compte. Et Ukasha ibn Muhsin, si on regarde sa vie après la mort du prophète, il est mort dans le djihad fi sabilillah. Donc s'il était mort mécréant par exemple, les gens ils auraient dit regardez le prophète il a dit, mais il est mort fi sabilillah dans le djihad.
Fadilatu Ukasha, donc le mérite de Ukasha ibn Muhsin, donc il fait partie de la aqida de croire que ce sahabi rentre au paradis.
استعمال المعاريد وحسن خلقه صلى الله عليه وسلم حيث لم يقل الرجل الاخر لست منهم. Donc après il parle du bon comportement du prophète et que le prophète il n'a pas dit à l'autre tu ne fais pas partie d'eux des 70 000, parce que il est possible qu'en fait Allah il ait révélé au prophète que cet homme n'en faisait pas partie et c'est pour ça qu'il n'a pas voulu demander, mais il ne lui a pas dit non toi t'en fais pas partie, il lui a simplement dit une parole détournée, Kacha t'a devancé.
C'est à dire quoi? C'est à dire c'est pas non en fait quoi, dit...
sur le bonhomme?
Ouais,
non on sait pas. Ouais, ça veut dire ni oui ni non. Il lui a pas cassé le cœur. Et c'est là, quand vous regardez ça, vous voyez qu'on est loin dans le comportement. On est très loin du professeur Sam et des Sahaba. Et ça, c'est des choses qu'il faut essayer d'appliquer, mais c'est pas facile. Qui d'entre nous, quand quelqu'un lui dit un truc, pour envoyer sa demande, il essaie de tourner une belle formule? Ça, c'est alors que c'est une sunna.
Il y a combien de connus, c'est marqué dans les 70 000?
Dans les 70 000, il n'y a que Ukasha. Mais sinon, en général, qui vont rentrer au paradis, il y a par exemple Bilal, radiallahu anhu. Il y a les 10.
C'est pas autre que ça, l'islam.
Ouais, voilà. Mais si dans les 70 000, le prophète, il a parlé que de Ukasha. Allah a'alam. Tu sais pas.
Saddu al-dhara'i, li'alla yaquma man laysa ahlan fayurad. Allah a'alam.
Saddu al-dhara'i, c'est-à-dire de couper court aux mauvaises choses. Parce que le prophète ici, il a coupé, il a dit, c'est-à-dire en fait, il a coupé le fait qu'on lui pose la question « demande pour moi », de peur que quelqu'un qui ne le mérite pas lui demande. Ça s'appelle « Saddu al-dhara'i ». Donc on a fini un chapitre, alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayk.